vous vous trouvez un peu lèche-cul, Caroline Diamant, avec Olivier de Kersauzon. À peine je prononce son nom, vous criez bravo, bravo, comme si vous l'attendiez comme le Messie.
Mais je suis ravie qu'il soit là.
Mais Caroline, tu as déjà fait une petite croisière avec lui?
Ça y est, il y a super crevette qui se mêle de mes affaires.
Assez-vous, ça, super crevette, Ariel.
Ah oui, c'est pas moi.
Pas mal.
Je vous rassure, c'est pour la taille, pas pour l'odeur.
Oh, oh non. Ah non. Non, monsieur
Vous
Riquier.
Êtes encore pire que qu'Olivier.
Oh, bah non, mais c'est normal. Écoutez, elle est si joliment parfumée.
Ah, oui.
Que
ah, oui.
Je tiens à préciser.
Bah, justement, on se demande qu'est-ce parfumée. Qu'elle cache.
Non, la sent de loin, Ariel.
Voilà. Ah oui, ah oui.
Oh, ah oui, oui, c'est l'air s'arrête.
Ah oui. Mais, ah, oui. L'air s'arrête.
Ah oui, oui. Oui. Elle a même la bouteille de parfum devant elle en permanence.
Ah mais oui, parce que
je faut qu'elle réapprovisionne en permanence.
Pour moi, l'essence, le parfum, c'est un des grands, grands plaisirs de l'existence.
Oh bah ça va,
je ne m'en laisse jamais.
Oh, Jean-Jacques. Oh, Sainte-Marie.
Vous êtes content depuis lundi d'être venu parmi nous, monsieur Kersauzon ?
Je suis très content.
De Kersauzon, pardon, j'ai oublié la particule. C'est... Voici d'ailleurs une première citation qui vous fera plaisir.
Oui, c'est ça.
Car c'est quelqu'un avec qui vous avez longtemps travaillé, qu'il faut retrouver aujourd'hui. Andreas Bayron, qui habite Lyon, espère quand même un chèque RTL, qui a dit « La chose la plus difficile dans la boxe, c'est d'apprendre à ramasser ses dents avec des gants. »
Jean-Yann ?
Non.
Jacques Martin ?
Non.
C'est un sportif ?
Un sportif. Ah non, c'était... Ah ! Alors là, j'ignorais. Peut-être que M. de Kersauzon, qui le connaissait bien parce qu'il faisait à peu près... Ils avaient des points communs, pourra nous préciser s'il était sportif.
Tabarly.
Tabarly, non.
Ouais. Est-ce qu'il participait aux grosses têtes ?
Il participait aux grosses têtes.
Sim !
Sim ! Et c'est Sim ! Ah. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est vrai que Sim faisait du bateau comme vous, Olivier.
Oui, oui, bien mieux que moi, mais ferme ta gueule. Bah.
Non, mais je l'ai vu avec une casquette de marin une fois.
Ouais, ouais, oui, ouais, sur ouais. La Dominique.
Moi, je t'ai vu qu'un slip petit bateau aussi. Donc,
Non, mais avouez que c'est vrai qu'il faisait du bateau quand même.
Ouais, pas du bateau, il habitait dans un bateau parce qu'il ne pouvait pas avoir de maison, personne ne voulait de lui comme voisin.
C'est vrai.
Oui, c'était effrayant, Sim.
Il était sportif ou pas, Sim, quand même. Il était souple, en tout cas.
Il était sportif comme n'importe quel grabataire qui arrive à se lever une minute trente. Il était pas sportif.
Sa femme nous écoute peut-être. Non,
mais c'est un bel hommage.
Mais il était vachement marrant.
Ah, quand même.
Non, attends. Non mais moi, j'ai joué sa femme.
Un marrant d'eau douce.
Oui, il faisait, un marrant d'eau douce.
Il faisait des coups que la morale réprouve.
Oui, moi, j'ai joué sa femme dans H Canonix, dans Astérix. Et il était très vaillant. Il montait, il descendait la colline des Gaulois. Il n'avait pas du tout l'air d'un grabataire. Hein.
Qu'est-ce que vous appelez la colline des Gaulois?
C'est pas des cuisses.
Non, mais on est...
Le couple Ariel Dombal et Sim.
Ouais.
Sim et Ariel Dombal, c'est un couple comme... Vous les aimez, je crois.
Très bien, ouais. Je...
Non, mais c'est vrai, c'est pas forcément.
C'est dommage qu'ils se soient pas.
Ouais. C'est des couples
à la reproduction, ouais.
Mais c'est vrai qu'en termes d'épaisseur, vous aviez quelque chose en commun.
En commun, c'est vrai.
Sim et vous, c'est vrai, on peut pas dire que ce
moi,
soit.
Moi, je peux voyager en bagage à main tous les deux.
Une autre citation pour Laurent François, qui habite Être. Je sais pas où c'est Être, d'ailleurs, dans le 17. Bah, c'est Charente. Charente-Maritime. Et la citation, la voici. Qui a dit, la violence à la télévision, nous dit-on, serait responsable de la violence dans la rue. C'est parfaitement stupide. Il y a beaucoup d'émissions humoristiques à la télévision. C'est pas pour autant que les gens sont plus drôles qu'avant.
Jacques Martin.
Non.
Alors, c'est français, figurez-vous.
Non, ce n'est pas français.
Eh ben, c'est
américain.
C'est américain.
Alors, c'est américain, oui.
Bob Hope.
Bob Hope, non.
Groucho Marx.
Non plus.
Non, mais est-ce que c'est Woody Allen, peut-être?
Non plus.
Il est mort.
Est-ce qu'il George nous a quitté?
Pardon.
George Carlin.
George Carlin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. Peut-être, expliquer à Stevie qui était George Carlin.
Oui, et George Carlin, moi aussi.
C'est un des pionniers.
Et à son grand-père aussi.
Le grand-père va te foutre ton pied dans le cul, tu vas voir. Petite saloperie.
C'est un des grands pionniers du stand-up américain après Lenny Bruce et plus tard. Ouais. Et quand il y a eu un classement notamment des plus grands humoristes de tous les temps aux États-Unis, il est arrivé deuxième.
Voilà.
Et c'est un
poulidor d'or de l'humour.
Voilà. Et qui était le premier?
C'était le premier. Le premier parce que Richard Pryor.
Si vous regardez un Panus, un Virga, un Tuba, ou même un Flumen, qu'êtes-vous en train de faire?
Alors, est-ce qu'on est dans une jardinerie?
Du tout.
C'est la plongée, oui.
La plongée, tuba, non.
Un Panus, un Flumen.
Un Panus, un Virga, un Tuba, un Flumen.
Sont des objets ?
Des objets, non.
Des boutons ? Des bijoux ?
Des bijoux, non.
Des plats cuisinés ?
Des plats cuisinés, ah oui, quel genre ?
Je sais pas, mais...
Oh bah, un planus, ça doit être très bon.
Tu vois, je t'ai fait un panus.
Heureusement, il y a panus.
Des furoncles ?
Des furoncles.
Est-ce que ce...
Vous regardez souvent des furoncles?
Ça m'arrive.
Des poissons.
Des poissons, c'est pas bête, ça. Vous voyez, c'est vrai qu'on aime bien regarder les poissons. Mais non, cher
Sophie. Est-ce que ce sont des champignons?
Des champignons, non.
C'est dans le ciel.
C'est dans le ciel.
Ah, la voie lactée.
Des oiseaux.
Des oiseaux, non.
Des étoiles. Des étoiles.
Des étoiles, non.
Des astres.
Des astres, non.
Des nuages.
Des nuages. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Oh, Christophe est en pleine forme.
C'est un miracle.
Le panus ou le virga sont des cumulus. Le tuba, le cauda, le flumen sont des cumulos. Nimbus.
Ah, oui.
Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un nouveau nuage qui a été désigné.
Ah bon?
Tu l'as dans l'anus.
Attendez, y a des, on crée des nuages?
Oui, parce qu'il y a une association qui se réunit régulièrement. Nuages. 42 000 membres.
ça, des passionnés des nuages.
Oui, oui, des amoureux des nuages. La Cloud Appreciation Society. Okay, et ils viennent de désigner à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie un nouveau nuage qui s'appelle l'Asperitas.
Ah, l'Asperitas.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen?
C'est quand même de la branlette de cerveau, tout ça.
C'est quoi? C'est quel genre de nuage? C'est un nuage élevé?
Ah, mademoiselle d'avant, quand même, qui a quand même pendant un temps présenté la méthode.
C'est vrai, longtemps.
Doit connaître les nuages,
ouais,
tout de même.
Vous avez vu, je connaissais même pas le nom des nuages.
Mais alors.
Mais non, mais est-ce que c'est un nuage élevé? C'est quoi? C'est un nuage de convection? C'est un nuage d'altitude?
Elle essaie de m'impressionner, hein. Monsieur Janssen, vous regardez les nuages de temps en temps?
Quand je suis dans l'avion, je les vois, on passe dedans même.
Ah bah oui, c'est vrai.
On passe en dedans comme ça, tu dis, ah, ça fait comme du gros coton, c'est très beau à voir.
Et normalement, vous les contournez, les cumulonimbus.
Ah,
là,
ça
les
c'est
gros.
Oui, bah oui, les orages, ouais. Il y a un gros nuage qui a une forme caractéristique en forme d'enclume. Que ça fait comme ça. C'est très très haut et tu vois l'activité électrique en dedans. Et l'avion, c'est sa peur, c'est de l'orage, il faut pas qu'il rentre en dedans, surtout pas. Alors on contourne, mais ça fait des turbulences, ça bouge et tout, ça. C'est incroyable. J'ai déjà vu la foudre passer dans l'avion, hein, ça traverse l'avion. Ce n'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de contact avec le sol, donc ça fait que passer. L'éclair, il rentre, il ressort de l'autre côté.
Ça fait cache de Faraday.
Ouais, exactement.
Ça, c'est incroyable.
Et alors, les passagers, ils ont vu passer la foudre dans l'avion?
Bah, les filles et tout, les hôtesses, elles sont épilées d'un coup, dis donc.
Parce qu'elles ont du poil, les hôtesses?
Non, non, elles sont toujours bien entretenues. Elles mettent des collants, elles mettent des collants de contention et tout. Hein.
Ah oui, on est obligé.
Oui, parce qu'on a les jambes qui gonflent.
Ça, c'est pas beau, les collants de contention.
Même les mecs se mettent des
collants. Moi, je mets des chaussettes de contention. De contention, ouais. Pas des collants non plus, mais des chaussettes. Parce que c'est pas le retour veineux, il se fait pas.
Et dans les parties, alors, les retours veineux?
Eh ben, il se fait pas non plus.
Bah, hein, marrant.
C'est très pertinent ta phrase, parce que j'allais dire un truc là-dessus, tu vois.
Allez-y, racontez.
Et ça fait quel effet, alors?
Eh ben, comme le retour veineux se fait pas en altitude, à un moment, si prends l'avion, tu vas prendre l'avion bientôt, tu vas aux toilettes au milieu du vol, hein, tu retires ton pantalon et ta culotte, tu observes ton machin, tu verras qu'il est plus gros que d'habitude.
Ah bon? Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup
Attendez, 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 attendez. Attendez, là, ça, c'est intéressant, ce que vous
dites. Parce que le retour veineux se fait pas, alors le sang, il stagne dedans et ça grossit. Ah, moi, j'ai toujours une belle louloute en altitude.
C'est l'effet Viagra en altitude.
Ah non, j'ignorais ça. Vous saviez ça, vous, Bernard?
Bah, je le savais. C'est pour ça que je me baisse qu'en avion.
Mais vous avez raison. J'avais remarqué. Moi, j'ai jamais réussi à descendre la tablette jusque...
Mais alors, attends.
Elle est toujours de biais.
Mais genre, plus le voyage est long, plus ça gonfle ou pas?
Ah bah oui, moi, c'est pour ça que je faisais que des longs vols.
Ah ouais? Si tu fais un 15h jusqu'à...
À 15h, t'arrives de l'autre côté, mais t'es le roi du tango. Hein.
C'est énorme.
Ah, le roi du tango, pourquoi vous dites le roi du tango?
Ah, les Amériques du Sud, moi, c'est mon fief, j'aime bien.
Ah, c'est votre fief?
Ah oui, l'Argentine, le Brésil.
Parce que ils bandonnaient.
Mais ils ont des voix sensuelles, comme ça, c'est un beau peuple, c'est métissé. Moi, j'aime bien, je suis bien là-bas.
Vous avez des adresses un peu insolites à Buenos Aires?
Sur Florida, il y a quelques bars sympas. Et...
Sur Florida, c'est quoi ça, sur Florida? Ah, c'est le nom d'avenue.
La plus longue avenue de Buenos Aires, hein, une rue piétonne.
Mais où est-ce que t'es sorti que c'est la plus longue? Pas du tout, elle est courte, Florida.
Oui, mais pas quand elle est en avion.
Elle est courte, mais large.
La plus connue.
Et alors, il y a quel genre de bar là sur Florida alors?
Oui, il y a quelques bars un peu olé olé. Hein,
Je me souviens que dans votre spectacle, vous racontez descendu une fois dans une cave. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave?
C'est à Bangkok.
À Bangkok, ah oui, c'est pas tout à fait pareil.
Un ping-pong show.
Ah oui.
Ah oui.
Et
ah,
les filles, elles envoyaient des balles de ping-pong avec leurs nénettes. Ça m'avait impressionné.
Moi, je l'ai vu avec des balles de tennis, elles étaient plus vieilles.
Et la question est théâtrale, culturelle. Qui a épousé la fille des Sotteville?
Hein?
Qui a épousé...
C'est dans une pièce, ça.
Hein. Eh oui, c'est dans une pièce. Bah oui, je viens de vous dire que c'était théâtral.
Oui, mais j'oriente mes copains.
C'est un boulevard?
Un boulevard, on peut pas tout à fait dire que c'est un boulevard.
C'est un policier.
C'est quand même un grand classique.
Ça a été écrit par Labiche, par exemple?
Labiche, non.
Non.
Fédot,
non.
Courteline, peut-être.
Courteline non plus. Qui? Alors attention, je vous demande pas l'auteur.
Oui, hein. Non, mais ça peut nous aider quand même.
L'auteur, je pense qu'on sera bien.
Bah oui.
C'est pas si sûr. C'est pas si sûr.
Ah oui.
Qui a épousé la fille des Sotteville?
Sotteville, ça doit être Sherlock Holmes.
Mais non, est-ce que c'est pas chez Molière?
C'est chez Molière.
Et ben voilà. Et ben c'est dans les femmes savantes.
Dans les femmes savantes, non.
Monsieur de Pourceaugnac?
Monsieur de Pourceaugnac, non.
Le bourgeois gentilhomme?
Non plus.
Non.
Dorante?
Non.
Le misanthrope?
Alors il s'agit évidemment du titre de la pièce, hein. Qui a épousé la fille des Sotteville?
Ah oui, je l'ai pas lu, ça.
La pièce s'appelle pas Qui a épousé la fille des Sotteville.
C'est pas clair, Laurent, franchement.
Elle porte le nom de qui a épousé la, elle porte le nom de celui qui a épousé la fille des Sotteville, la pièce?
Non.
Exactement.
Voilà.
Alors ce serait le misanthrope?
Le misanthrope aurait épousé la fille des Sotteville.
Eh ben, il aurait bien fait.
Bah, oui.
Non, pas du
tout. C'est une pièce moins connue de Molière.
Oui, mais qui se joue actuellement.
Oh, ça m'étonnerait.
Ah bah si.
Bon. Est-ce que ce serait pas le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux? Ou alors les quatre saisons de Vivaldi de Mozart?
Dandin? Non, c'est pas Georges Dandin.
Comment vous dites?
Dandin, Georges Dandin.
Georges Dandin, excellente réponse de Muriel Robin. Paysan, Georges Dandin. Et il épouse la fille des Sotteville parce qu'il a beaucoup d'argent, évidemment. Mais elle ne veut pas coucher avec lui.
Ah merde.
Eh oui, elle couche avec Clitandre.
Ouais, qui a un nom un peu excitant.
Enfin, qui commence bien et qui finit mal.
C'est vrai que c'est pas la pièce la plus connue de Molière.
Non, non.
Vous voyez pourquoi, évidemment, la question était intéressante, monsieur Semoun.
Et je suis étonné que Muriel, qui n'y connaît rien du tout, ait trouvé la réponse.
Vous avez pourtant démarré au théâtre ensemble, non? Vous n'étiez pas
tout
dans la même compagnie, théâtre?
C'était un gamin, il y avait encore du lait qui lui sortait du nez, alors.
J'avais 19 ans, donc faites le calcul, on se connaît depuis 2 ans.
Et vous avez joué des, vous avez joué des grands
classiques.
On a joué dans Les Folies Amoureuses.
Les Folies Amoureuses de Jean-François Regnard, qui était un contemporain de Molière.
Donc moi j'avais une robe à panier, lui faisait déjà, et déjà il déconnait sur scène, déjà ça m'agaçait. Déjà je l'emmenais. Moi j'étais déjà rigoureuse et lui déjà déconneur. Donc,
voilà. Mais et on s'aime quand même.
Voilà, et 30 ans après, c'est toujours pareil.
Georges Dandin, Angélique, monsieur
Mendes. On écrit ensemble le nouveau spectacle de...
Oui,
c'est pas vrai.
Et oui, on écrit ensemble.
On a des sketchs, c'est des bombes, il a des trucs formidables.
Super.
Vous le surveillez bien, il chantera pas.
Non.
Ah ben il a failli.
Vous aussi bien qu'il prépare un album, m'a interdit en plus.
À un moment, il me dit, et si... Stop. Tout de suite.
Non, mais j'oublie.
Je lui ai fait,
écouter un début de chanson, il m'a dit, non, ta gueule, arrête-toi.
Au bout de 4 notes, déjà, je pionçais, donc... c'est vraiment, si tu veux foutre ton... À la fin, je pourrais faire ça, j'ai dit, oui, c'est vrai, t'as bien fait rire pendant 1h30, puis paf, tu nous fous le truc en l'air.
Avec tout le respect que je te dois, Muriel, t'es une belle saloperie.
Une question pour Carole Maître qui habite Bordeaux. Si vous utilisez un médicament ou un remède alexithère, c'est pour quelle raison?
Pour déverrouiller les émotions.
Expliquez-moi.
Parce qu'une alexithymie, c'est quand on fait un déficit de verbalisation des émotions.
Oh la vache!
Donc je me dis que Alexis...
Il s'est drogué! Je demande un contrôle de dopage!
C'est le vrai Stevie?
Mais non, il a sucé Maître Capello.
Non, c'est pas ça. C'est quand je suis aux toilettes, je lis le dictionnaire, figure-toi, pour apprendre des nouveaux mots. Et j'ai appris ce mot-là.
Toujours.
Bah c'est très long, il y a beaucoup de lettres qui commencent par A.
Mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors
est-ce que vous pouvez quelque chose pour soigner la sudation sous les bras?
La sudation sous les bras, non.
Comment s'écrit ce mot?
Moi j'ai besoin de l'orthographe.
Alors A-L-E-X-I-T-E-R-E. Alexithère.
C'est physique ou c'est psychique?
Ah, ce n'est pas psychique, ce serait plutôt physique.
C'est quand il n'arrive plus à bonder, on lui donne les médicaments par l'exithère.
Non, monsieur Logérias.
Rien à voir donc avec un truc sexuel, Alexis, pour aller mieux sexuellement.
Il n'y a rien de sexuel là-dedans, non.
C'est un vrai sport.
Excusez-moi, mais...
Il n'y a pas de sport là-dedans.
Si on cherche, dans le mot alexithère, il y a exit qui veut dire sortie. Il y a un rapport avec quelque chose qui sort.
Oui, quelque part, oui. En gros, vous rentrez dans une pharmacie, vous voyez le pharmacien.
Et vous ressortez.
Ou la pharmacienne. Et
bonjour madame Bachelot, par exemple.
Bonjour madame Roselyne.
Oui, c'est un médicament pour évacuer...
Oui.
Oui.
Contre la constipation.
Ah, voilà, contre la constipation.
Fuca, quoi, c'est fuca.
Voilà, par exemple.
Non, alors, c'est pas pour le cul, c'est pour les artères, non?
Non plus.
Non. Mais moi, j'ai pas dit que c'était pas le cul.
Non, mais elle excitait.
Oui, Daniel.
Vous aviez commencé une explication de...
Non. Si. Bah non, parce qu'il donne pas les réponses en général. Il pose des questions, lui, c'est son métier.
Il est en train de nous aider.
Est-ce que vous, Laurent, vous avez pris
alors,
ce médicament?
Si vous avez dit, jamais, on entre dans une pharmacie.
J'en ai jamais eu
besoin. Qui ici aurait besoin de ça?
Ça, on n'en a pas besoin de façon permanente. C'est généralement une urgence. On rentre dans la pharmacie, on dit, monsieur le pharmacien, vite, même la pharmacienne, est-ce
on
que...
Fait ah, c'est quand on saigne du nez?
C'est... Non, c'est quand on s'est fait piquer par une abeille.
On s'est fait mordre par un serpent venimeux.
C'est quand on s'est fait mordre par un serpent. C'est en effet pour prévenir ou pour guérir des effets d'un venin ou d'un poison. C'est un contre-poison, un remède à l'excitaire. Bonne réponse de Laurent Baffi. Bravo.
On devrait en prendre quand il vient, ma fille.
Vous êtes déjà fait mordre par un serpent ici, quelqu'un? Non, jamais?
Dieu merci, non.
Non. Non.
Oh bah ça pourrait arriver dans vos balades en forêt, Stevie.
Ah mais moi, je suis le roi des animaux. Il m'aime. Même
alors,
les mouches me laissent tranquille.
Du type qui se fait mordre par un serpent.
C'est quoi l'histoire?
Il appelle le Toubib parce qu'il voit les symptômes de son pote.
Je connais pas.
Et on lui dit quoi? Il appelle un copain Toubib, ils sont dans le désert. Il dit, bah, il faut que tu lui suces la plaie, vite, vite, vite. Il s'est fait mordre sur le bout de la bite, son pote. Et l'autre, il est là, anxieux, il croit qu'il va crever. Et il voit son pote avec le Toubib et il lui dit, bien, vous pompez, vous sucez bien, vous enlevez le venin. Il raccroche, son pote, il dit, il a dit quoi? Il a dit que t'allais crever.
Elle est top.
Je suis surpris que vous n'ayez jamais été mordu par un serpent.
Non, rien.
Enfin,
rien.
Mordu, ça n'a pas de dents, mais je veux dire...
Oui, non, mais c'est, j'en ai vu, de près, me frôler.
Ah oui?
Mais
bah oui,
quoi, ah, mais oui mais moi, je les laisse tranquilles. On se regarde, ça, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, enfin, ça se passe bien. Hein.
Monsieur Rioux.
Jamais été mordu. Pourtant, j'ai fait Fort Boyard. Hein. Et j'ai eu, je pense, il y a eu un moment...
Vous avez fait Fort Boyard?
Ouais.
Je voudrais voir les images.
J'ai été énorme.
Oui, mais comme passe-partout, pas comme candidat.
J'ai fait la tête chercheuse. Donc t'avances un petit peu. Et il faut un petit peu en... Bah, ouais. Il faut trouver un indice qui est dans une cage. Et j'ai eu tout. Hein. J'ai eu des ratons laveurs, j'ai eu des souris.
Et
j'ai dû avoir des serpents aussi.
Et vous, Caroline, vous l'avez fait?
Non, j'ai jamais fait, mais on m'a appelé cette année pour
me proposer. Ah, moi aussi, on m'a appelé. J'ai dit non, tout de suite.
Ah, non, mais...
Pourquoi vous faites pas, Laurent? Mais c'est extraordinaire.
Mais oh, de question que je fasse Fort Boyard.
Mais il faut faire Fort Boyard. C'est extraordinaire.
Moi,
il y a une ambiance
dingue. Non, moi, j'ai failli mourir deux fois.
J'ai pas envie de me montrer en survêtement à la télévision.
Ah, vous préférez montrer votre saut de bras. Ah, là, il n'y a pas de pudeur, là.
Mais vous arrêtez pas de faire du sport, vous êtes à la salle tous les jours.
Oui, mais là, quand je fais du sport, on me voit pas, j'ai pas envie de me montrer sur France 2 à 21h.
Bah, vous serez encore plus aimé.
En survêtement, une érection est vite arrivée. Bon, moins vite qu'avant, mais quand même.
Pourquoi vous êtes aussi pudique, Laurent? C'est génial de se montrer aux gens.
Non.
Montrer un petit peu
moi, ce qu'on est. Moi, j'aime bien sa pudeur, je dis, tu vois. Et d'ailleurs, on voulait t'en parler.
Comme d'un
on
exemple.
On aimerait beaucoup que tu suives son exemple.
Vous voulez pas faire Koh-Lanta quand on voit plus jamais?
J'adore Koh-Lanta. Oh, et j'adore Top Chef. Est-ce que vous avez vu Top Chef? Il y a une nouvelle, il y a une nana qui est extraordinaire, comment elle s'appelle, Justine, et elle est fantastique, c'est moi au féminin. Elle rigole tout le temps,
Non,
elle est extraordinaire.
J'espère qu'elle n'entend pas. Ah, une question pour Christophe Edouard qui habite les Auxons dans le Doubs. Ça ne vous a pas échappé parce qu'RTL vous en a parlé ce matin. Les Français, l'hygiène.
Ah, j'adore. Alors là, je suis au taquet là-dessus.
Plus d'un quart des hommes gardent leurs caleçons plusieurs jours.
C'est génial. Voilà,
ça, c'est quand même. Alors là, écoutez, puisqu'on est quand même 1, 2, 3, 4, 5 garçons, les filles, paraît-il, font attention.
Il paraît que vous changez plus vos culottes.
Elles changent plus souvent.
Elles retournent leurs culottes le lendemain.
Ça compte. Non, parce que les mères, elles me disent toujours, surtout une culotte propre, parce que si t'as un accident, tu vas à l'hôpital.
Oui. Et oui, bah, d'ailleurs, j'avais écrit tout un sketch pour Jean-Marie Bigard sur ce sujet, mais c'est vrai que moi aussi, ma mère.
C'était pas assez vulgaire.
Ah, bah, non, mais non, il le fait, je touche toujours les droits, je le vois, il le fait toujours en tournée, ce sketch, où effectivement, ça, on a tous entendu notre maman nous dire, mets une culotte propre au cas où il t'arriverait un accident.
Et les ongles des pieds, des chaussettes propres.
À les ongles des pieds aussi, il y a ça.
Coupe les ongles, parce que si je te retire tes chaussettes à l'hôpital, elle va dire à l'infirmière, ouh, c'est sale.
Bon, alors faisons le sondage sur ce plateau. Qui a la même culotte qu'hier, Jean-Phi?
Bah, même si c'était vrai, vous croyez que je dirais j'ai la même culotte qu'hier?
Moi, c'est sûr, je change tous les jours, hein, parce que de toute façon,
elle tient
pas la journée,
mais ce qui se passe, t'es obligé.
Beaugrand, vous avez la même qu'hier.
Ah ben non, moi, je me change tous les jours.
Manœuvre.
Arrêtez, Laurent Nono.
J'ai le même qu'en 68. J'ai toujours le même calbut.
J'ai la culotte de Madonna.
Parce que c'est vrai que c'est un peu rock'n'roll d'être un peu crasseux parfois.
Alors, ce qui est rock'n'roll, c'est quand on a un vieux jean et qu'on l'aime tellement, on en achète un neuf et on l'enfile par-dessus le vieux.
Non.
Ah, bon, ah si, on fait énorme. Ça avec les jeans en cuir.
Non, mais Laurent n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de légende du rock où on se dit les rockers, ils sont pas très propres, ils prennent pas des douches tous les jours quand même, non? Est-ce que c'est une légende, ça?
Bah, pourquoi, c'est une légende parce que moi.
Mais alors, d'où vient l'odeur du coup?
Peut-être du patchouli qu'on a.
C'est du rock fort. Et vous, Gazan, alors?
Bah, tous les jours,
tous
évidemment.
Tous les jours, bah oui, évidemment. Ouais,
non, mais dans le sondage, ce qui est dément, c'est qu'il y a quand même 1% des gens qui n'en changent que tous les 15 jours.
Il y a autre chose dans l'article du Parisien signé Christine Mathéus aujourd'hui. On va toujours interroger l'autre qui a que ça à faire, là, monsieur Salman.
Disponible.
Il est toujours disponible. Micro, caméra, il est toujours là. Ouais. Mais quand même, il dit quelque chose qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude-là chez nous, et je dois reconnaître que quand j'ai lu là, je dis « Oh bah là, au moins là, une voix, voilà au moins un truc qui dit que je vais faire désormais. Ouais. » Je ne le fais pas toujours. Il paraît que les Américains le font tous et que nous, les Français, on ne le fait jamais. Quoi donc ?
Les oreilles.
C'est pour les doigts, non ?
Pour les doigts, non.
Les oreilles.
Se laver les mains.
Non.
Pour la louloute.
Non.
Se brosser la langue.
Non.
Ah, les oreilles.
On baisse la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse.
Les Américains, effectivement, baissent la lunette des toilettes et la cuvette, enfin, le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse.
Ah oui.
De manière à ce que, évidemment, les microbes n'aspergent pas toute la salle de bain. Enfin, nous, les Français, on la baisse
avant.
Et on pisse dessus.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude. On tire la chasse. En fait, les Français, nous, on aime bien voir si ça part.
Oui.
Mais c'est que on n'a pas confiance.
Non.
Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau qui coule? Et puis, on paye tellement cher l'eau et envie de l'avoir coulé, c'est un spectacle.
C'est pour ça qu'on le fait pas.
Mais alors,
c'est parce qu'on n'a pas confiance. On a peur que ça parte pas.
Et il y a des psychiatres qui disent que c'est important qu'on se retourne pour regarder que ça part.
On lui dit au revoir.
Parce que sinon, on a.
Oui, mais ça n'est pas hygiénique, les Américains. Eux tirent la chasse parce qu'effectivement, autrement, les microbes vont être projetés un peu partout dans la pièce.
Projetés, c'est pas non plus.
Les chutes du Niagara.
Ils sortent des chiottes.
Non, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout.
S'il le dit, Salman, vous pouvez le croire.
Oui. C'est parce que le système de toilette est pas le même. Aux États-Unis, ils ont un système, leur chiotard, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, leur gog, sont un peu différents dans la conception.
Oui.
Et le truc part devant.
Vous avez raison.
C'est
moi qui vais aux États-Unis.
Voilà.
Tous les
c'est pas le même. Nous, on dit toujours en France, la merde, elle est derrière, mais en Amérique, elle est devant.
Il y a un autre truc, c'est que, alors ça, c'est assez curieux.
Il y a un étage.
Non, c'est pas ça, c'est que l'eau des toilettes monte très haut.
Ouais. Et il y a les toilettes avec un jet pour nettoyer aussi.
Les
Japonais.
Au Japon. Ouais,
chez moi, c'est comme ça, je vous signale.
Ah, c'est génial.
Faut qu'on fasse caca chez vous, alors. Non, et puis ce qui est bien, moi, ça m'est déjà arrivé de tester ça, c'est le petit sèche-cheveux. Enfin,
oui,
pas sèche-cheveux, mais le petit séchoir.
Il y a tellement de boutons, faut pas te tromper, parce que non, c'est la rage Tampax, alors.
Mais c'est pas vrai, ça.
Non, c'est important, l'hygiène, quand même. Il était temps qu'on en parle aux grosses têtes. Une question pour monsieur Mouton, qui habite Boulogne-sur-Mer. Ah ben, ça tombe bien parce que la question va porter sur le film Le Jour le Plus Long, un film qui va être rediffusé, là, dans les jours qui viennent. C'est souvent diffusé, Le Jour le Plus Long, avec un casting, évidemment.
De rêve.
Incroyable.
Incroyable casting international, aussi bien côté français que côté allemand, côté américain. On va dire le Gotha
des stars de l'époque.
De Bourville.
Alain Delmondo,
un tout petit rôle aussi, mais dans les principaux rôles, il y a Arletty, il y a Bourville, il y a Pauline Carton.
Il y a Dora Dole.
George Wilson.
Kev Adams.
Madeleine Renaud.
Jordi.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que la première fois où ce film, Le Jour le Plus Long, fut diffusé à la télévision, c'était en 1976. Un soir de novembre 1976, France 3, FR 3 à l'époque, diffuse Le Jour le Plus Long pour la première fois. Et FR3 décide de rediffuser le film 3 semaines plus tard. Pour quelle raison ?
Est-ce que c'est parce que ça dépassait minuit et en principe il n'y avait plus de programme après minuit et il y avait la mire ?
Non plus.
Il y a eu un incident ?
Ils avaient oublié un passage ?
Non.
Ils avaient une mauvaise version ?
Non.
Il y a eu un incident.
C'était en noir et blanc. Ah non, au début c'était en noir et blanc, après ça a été en couleur.
Non.
N'importe quoi.
Là on est en 76.
Il y avait une panne.
Alors expliquez. Il y a eu une panne pour quelle raison ?
Une tempête ?
Non.
Est-ce qu'il y avait trop de gens qui regardaient la télé en même temps ?
C'était la première diffusion de ce film.
Oui, et donc,
c'était
donc
la première fois que ça passait à la télévision à 20h50 ou à 20h30, donc il y a eu trop de gens qui ont regardé parce que tout le monde voulait voir
le jour le plus long. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Non, non, je vous jure vraiment, c'est ça la raison, c'est incroyable.
Mais comment ça, il y avait trop de monde, alors ça a fait sauter les
C'était la première fois qu'on diffusait le jour le plus long, donc tous les Français voulaient voir le film, ceux qui l'avaient vu déjà au cinéma, mais ceux surtout qui ne l'avaient encore jamais vu. Et ce soir de novembre 76, FR3 diffuse le film. Les Français sont si nombreux devant leur téléviseur que le réseau électrique national ne résiste pas, paraît-il. J'ai du mal à le croire.
Incroyable.
Beaugrand, t'as jamais eu de son avec tes merdes, toi.
Surtout en 76, quand même.
Et donc ça lâche sur une partie du territoire, plongeant dans le noir des millions de foyers.
Ah, carrément panne d'électricité générale.
Ah oui, et trois semaines plus tard, le film est donc rediffusé à partir de l'attaque du casino de Ouistreham, puisque c'est le moment où la coupure est intervenue.
Bon, ils n'ont pas rediffusé tout le film, ils l'ont diffusé juste au moment où ça s'était arrêté.
Et oui, exactement.
C'était un gros entracte.
C'est pas très agréable.
Alors, le jour le plus long donne la nuit la plus longue, puisqu'on est privé d'électricité.
Ah. Et à quelques mois après, que le François sera encore en vie, surtout.
généralement,
faut espérer dans ces cas-là que ton épouse te dise pas non, pas aujourd'hui, c'est le débarquement.
Non mais vous savez que c'est généralement quand il y a des pannes d'électricité que 9 mois après, il y a beaucoup d'enfants, il y a des baby-boom dans la foulée, des pannes d'électricité parce que les gens n'ont plus la télé, ils savent pas quoi faire donc ils baisent.
Ça fait disjoncter ça s'appelle.
Oui.
Merci, merci Ariel. On apprend des choses, hein.
Non, mais dans Ariel est électricien.
On apprend des choses. Hein.
Et dans le rôle de Jeannine Cascouille, Ariel Dombard.
Ce qui est génial, c'est que je voudrais comprendre votre raisonnement, cher Ariel.
Elle est disjonctée aussi.
Il n'y en a pas.
C'est-à-dire que pour vous, en fait, c'est
non, mais écoutez,
tellement éloigné des plombs
non,
que...
Non, mais justement, tout à coup, on est dans le noir, on va, ça a disjoncté, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as branché ceci ou cela? On va voir dans le petit tableau.
Mais tu sais où il est?
Oh là là, incroyable.
Oui, non, mais chez moi, c'est un Van Gogh.
on va voir sur le petit tableau s'il y a un petit truc qui est... tombé,
oui.
Enfin voilà,
infusible.
Et puis on réappuie sur tous les trucs. Parfois, on réappuie.
Je les imagine bien, tous les deux avec devant le tableau d'électricité avec Bernard Henry et Ariel. Ouais. Je vous vois, je sais pas, il y a quelque chose de philosophique là-dedans.
Imagine.
J'ai cette impression d'un couple uni.
Mais elle a raison parce que je suis pas plus doué qu'elle. C'est vrai qu'on est là à regarder le tableau. Et il y a tous les bitonios qui sont en l'air sauf un. On se dit, tiens, c'est celui-là qu'il faut relever.
On le remet, justement, tout ressaute.
Mais sauf que généralement, avec Bernard Henry, vous faites ça avec une jolie petite bougie en vous voyant. À votre avis, c'est celui-ci. C'est quand même beaucoup plus chic.
Bernard, arrêtez avec le grippin.
Bernard, allez-y, j'ai peur de me prendre du jus.
Pouvez-vous me citer quatre personnages, je ne parle pas des interprètes, quatre personnages de la comédie musicale Starmania?
Alors Johnny Roquefort.
Bravo, ça en fait
Ziggy,
un.
Ouais. Crystal.
Ça en fait deux.
Ziggy.
La chanteuse automate.
Crystal, la serveuse automate, zéro janvier.
Comment elle s'appelle, la serveuse automate?
Elle s'appelle Morissette Poindeau.
Vous m'en avez, de toute façon, vous m'en avez déjà donné quatre, bravo. Zéro janvier, Ziggy, Crystal, Johnny Roquefort, ça en fait
Et
déjà
quatre. La serveuse s'appelle comment?
Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne,
la serveuse automate. Il y avait aussi Stella Spotlight.
Ah oui.
Et Roger, le présentateur du journal télévisé. Bonne réponse collective, je dois dire. C'est vrai que c'est une comédie musicale qui a tourné dans le monde entier. Ah. Il y a même eu une version, je crois, une version russe de « J'aurais voulu être un artiste ».
Ah bon ?
Не сподивит, не трет, не вечь, Пор мода дняцти довер мощ, Хрубахр мест мод звезды, Пор мока свастит мед жидвой, Из моды бой, ролищой, И хрмоса дешной опой. Нет боти бой, нет модевей. Под неездовой приволочью. Под нет бот будь кладовой. Петротердам в ответ рью.
Génie absolu. C'est bien, dis donc.
Et la version portugaise, c'est, ça donnait quoi la version portugaise de Starmania?
És bem do verto, mon artiste. És bem não baixo do verbio. Que estés mimando, estés feliz. És bem mais puto rio. És medo ver que és bala ouviu. És peço te veus tocou do vau. És mês diz dez do verbio. É presta veus do mdegal rio.
E Ziggy, est-ce que... Est-ce qu'on pourrait avoir Ziggy, par exemple, en, je sais pas, en italien, Ziggy?
Ziggy, centorito Ziggy, al pezzone Davi, mezzo da ver chi pone ziento, i fer castano rapetanta. Ziggy, centorato Ziggy. Ah, ne fai se vuoi.
Et Ziggy en japonais?
Ziggy, horoso odo Ziggy. Orosimasto choingo, engonorzin ton sodoman.
J'ai jamais ri comme ça.
C'est gotaingo wandonkiko.
C'est un succès international.
International. Ah, bravo,
et en québécois, bravo. La version originale en québécois.
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. J'suis souveraine secrétaire. J'ai mon bureau d'un tour où je vois le monde à l'envers. Des fois, je vous profite du bain.
Et à Bruxelles, ça cartonnait à Bruxelles.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste avec les danseuses qui vont accompagner monsieur. On les appelle les gaufrettes, elles sont de Liège.
Et en Suisse, Ziggy en Suisse.
Oh là là. Ziggy. Il s'appelle Ziggy.
Ah, mais qu'il est drôle.
C'est mon seul ami. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi, je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais.
Un succès francophone dans le monde entier. Heureux de vous retrouver, Thierry Ardisson.
Bah, je suis très heureux.
En plus, avec votre acolyte, Laurent Baffy.
Mon frère, mon ami.
On s'est quitté il y a 20 minutes. Parce qu'en plus, il veut que je dorme avec lui maintenant.
Et peut-être vous n'avez encore jamais fait l'émission avec Ariel Dombasle.
Non, je suis ravi, vraiment très heureux.
Alors méfiez-vous parce que c'est la tôlière.
Aïe, ah, ouais.
Ah, il faut le savoir, elle a pris l'émission en main.
Oh, t'es gentil, dis donc, alors.
Qu'est-ce qu'elle a, Ramsès 2?
Chantal, il faut l'admettre. Ariel,
c'est vrai, c'est vrai.
Ariel s'est intégrée.
C'est vrai, Fifi Longjaret, très bien. Ouais.
Ariel, vous connaissez bien Thierry Ardisson, évidemment.
Et ce que j'aime chez Thierry, oh ben c'est que tout de même, venir, non, mais c'est que tout de même, quand on regarde comme ça, rétrospectivement, le grand inventeur de la télévision, c'est Thierry.
Mais bien sûr,
c'est oh lui là. Qui a inventé les meilleures choses à la télé.
Il a même inventé Michel Drucker, c'est pour vous dire.
Regardez, il est même encore en noir et blanc.
Voilà.
Et vous, Pierre Bénichou, on ne vous a pas entendu encore. Qu'est-ce
tant
qui
mieux,
se passe?
Tant mieux. Je suis fasciné par une beauté. Elle sait qui c'est, hein.
Ah, je crois que c'est la dame avec les lunettes sur la tête.
Ouais, avec les lunettes sur la tête, tu penses.
Comme ça, elle vous voit moins bien.
Elle est bien, elle est bien.
C'est pratique c'est quand on sort avec Pierre, parce qu'il prend toujours les moches.
Je crois qu'il est temps de passer. Il est temps de passer à une citation pour Josette Belin, qui habite Bretteville-sur-Odon, qui a dit « Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y a assez de cons qu'on prend pour des gens. »
Coluche ?
Non.
Français ?
Français, qu'on cite assez peu dans l'émission, et pourtant il a eu, quand même, tout au long de sa carrière, quelques jolies formules.
Robert Lamoureux ?
Robert Lamoureux, non.
Guy Bedos ?
Guy Bedos, bonne réponse. Une autre citation pour Clément Daël qui habite Nice, puisque vous êtes si rapide. La voici. Ma femme prétend que je ne l'écoute jamais. Enfin, un truc comme ça.
C'est très joli, ça.
Woody ma Allen. Femme prétend que je n'écoute jamais. Enfin, un truc comme ça.
Français?
Français, non.
Américain?
Américain, oui. Oui.
W.C. Field?
Non, plus récent que cela. Vivant?
Steinfeld?
Non, vivant encore.
Woody Allen?
Woody Allen, non.
Un acteur?
Plus jeune, acteur, humoriste,
Crystal,
scénariste.
Billy Crystal?
Non, producteur.
Chris Rock?
producteur, musicien aussi américain.
Mais il fait rire.
Et il fait rire.
Ben Stiller ?
Non, mais c'est pas loin.
C'est pas loin de Ben Stiller.
C'est pas loin de Ben Stiller.
Vous savez même pas qui c'est Ben Stiller.
Mais non, je sais pas qui c'est Ben Stiller, déjà j'ai du mal à savoir.
Après Ben Barka, il est largué.
Comment ça se fait que vous sachiez pas qui est Ben Stiller, Pierre ?
Demande au public si...
Ah bah levez la main ceux qui savent qui est Ben Stiller. Regardez, regardez, Pierre, ah oui, regardez,
pas,
regardez.
Pas beaucoup, non.
Oui, ils sont 12, dont 9 menteurs. Ouais. Et 3, dont 9 menteurs et 3 snobs.
Bon, de toute façon, c'est pas Ben Stiller, mais c'est pas loin.
Il est blanc.
Il est blanc.
Ah, Georges Hulmer.
Pas américain, Georges Hulmer.
Il anime un talk show ou pas?
Non, je crois pas qu'il ait animé de talk show. Ah si, remarquez, il a été producteur, mais pas animateur du Saturday Night Live. Mais scénariste, comédien, il a quelques films cultes américains à son actif.
Adam Sandler?
Adam Sandler, bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Monsieur Bastien Ferreira, qui habite Cuiry-Housse, dans l'Aisne. C'est en 2016, il y a donc déjà 2 ans, que la coupe en argent a été remplacée par un modèle en plaqué pour faire des économies parce qu'on en distribuait trop.
C'est la crise.
Alors, mais des coupes qui récompensaient qui et pourquoi ?
Un fait de guerre ?
Un fait de guerre, non.
Est-ce que c'est sportif ?
Sportif, non.
Ah. Est-ce que c'est agricole ?
Agricole, non.
Est-ce que c'est genre le mérite du travail, comme on a la médaille du travail ?
Non, non. On monte sur un podium pour la recevoir ?
Ah non, non, ça je ne crois pas.
C'est scolaire ? C'est scolaire ?
Avant, on distribuait une coupe en argent jusqu'en 2016. Puis comme il y en avait trop, on a dit, ah, ça fait trop cher, on va distribuer des coupes en plaquettes.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on remet avec l'âge, en fonction de l'âge des personnes ?
Oui, exact.
Ah, c'est lié au baccalauréat ?
C'est les centenaires.
Ah oui, mais où ?
À Paris, dans la ville de Paris.
Non.
Pas en France.
Non.
C'est pas en France. Et les centenaires, parce qu'il y en a de plus en plus.
Oui, mais
à Tokyo.
Les centenaires au Japon. Ah. Bonne réponse collective. Ah. 70 000 centenaires.
C'est incroyable.
C'est énorme. En 2023, il y en aura plus de 100 000 des centenaires.
C'est normal,
Japon.
Hein.
Ah oui.
Bah, la médecine chinoise, elle a 3000 ans.
Ouais, mais là, c'est japonais,
au Japon, là. Hein. Ouais, mais on s'en fout, c'est pareil.
Ouais, bien sûr.
Ah,
ben,
attends. Ah, un milliard ou deux.
Je suis désolé. La médecine allemande et la médecine française, c'est pas la même.
Rien à voir.
Non, mais ils boivent de l'eau chaude, par exemple. Tu
ça,
sais
oui.
Que tu rallonges ta vie de 10 ans. Tu te lèves le matin, tu bois de l'eau chaude. Tu bois que de l'eau chaude.
Tu mets rien dedans?
C'est pour le, ah oui, pour la longévité, pour tout ça, c'est énorme. Nous, on a mal au coude, on prend un Doliprane. Qui te bousille le foie, tu comprends ?
Bah, tu penses que c'est le Doliprane qui t'a bousillé le foie ?
Eh ben, c'est pas impossible. Eh ben, Titoff, je t'adore, je sais que tu connais aussi le véhicule et que t'as sûrement bu plus de pinard que moi. J'ai pris de Doliprane, mais Doliprane, ça t'abîme plus que de boire une bouteille de vin. Hein,
non, mais garanti. Bah, je prendrai plus de Doliprane après.
C'est la première
après,
fois
alors.
Que j'assiste à un concours de biture. Ariel, vous buvez de l'eau chaude, vous ?
Eh ben, écoutez, j'ai même dit ici aux grosses têtes que qui est l'inventeur de l'eau bouillie, l'empereur Chen Nong, oui. Qui a dit il y a dans l'eau... Ah mais oui, mais c'est important.
Ouais,
mais ça a sauvé des épidémies monstrueuses.
Oui, mais d'ailleurs, Laurent Ariel a 102 ans, hein, quand même.
Il faut boire de l'eau... Enfin, c'est lui qui le premier a fait bouillir l'eau. Il faut passer l'eau par le feu.
Ah,
imaginez qu'on n'ait plus
des boissons chaudes. Je me dis d'entrer à la maison pour boire un verre d'eau chaude, moi.
Non, mais qu'on n'ait plus de thé, ben, ce serait dramatique. En tout cas, pour moi, ça le serait.
Vous avez encore une petite histoire, monsieur Bigard ?
C'est le mec qui dit à son pote, qu'est-ce que tu aimes, toi, que te fasse après l'amour ? Tu viens de faire l'amour, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu as envie le plus ? Et son pote, il réfléchit, il dit, ben moi... Tout de suite, après avoir fait l'amour, ce que je préfère, c'est qu'on me rende l'argent.
Une question pour Christelle Dumélie, qui habite Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je vais vous donner le nom d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Picot. Peut-être vous donner son prénom, même si on pense qu'il y a eu différents prénoms, mais on va dire que c'était Pierre Picot, voilà, qui était cordonnier, Pierre Picot. Il est mort à 34 ans, donc il est mort jeune, ce cordonnier. Il est mort en 1815, Pierre Picot, cordonnier, mais il est mort après s'être vengé de Mathieu Loupian, de Antoine Alut, mais aussi de Solari et Chaubard. Je peux même vous dire que quand il a tué Chaubard sur le pont des Arts,
ah oui, il les a tués.
Ce cordonnier a inscrit sur la manche de celui qu'il a tué numéro 1. Puis ensuite, quand il a tué, même empoisonné, parce qu'il s'est servi d'un poison, quand il a empoisonné Solari, il a inscrit numéro 2 sur le cercueil de Solari.
Oh là là.
Mais qui était Pierre Picot?
C'est un personnage, des romans, en fait.
Et numéro 3, tu nous le donnes pas?
Eh ben, numéro 3, il a pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit, mais il a quand même tué le numéro 3. Alors,
mais le numéro 3 a eu le temps d'écrire Omar m'a tué. Genre.
Non,
alors attendez, vous disiez.
Non, quand il a poignardé le numéro 3, en fait, on l'a séquestré, empoigné, il a pas eu le temps de marquer numéro 3.
Vous disiez que vous vouliez, il voulait se venger, ce monsieur.
Oui, absolument.
Donc on lui avait fait du mal.
Ah oui, on lui avait fait du mal.
On lui avait baisé sa femme.
Non, mais on lui avait pris sa future femme, en tout cas, c'est sûr. Monsieur Pierre Picot.
Ouais, ça sent le drame passionnel.
Il avait voulu se venger, c'est ça, à la place de la justice. Il avait voulu faire justice tout seul.
Absolument, ce cordonnier s'est vengé à la place de la justice. Il faut dire que ce cordonnier a passé 7 ans de prison avant de ressortir de prison.
Seulement
pour trois meurtres.
Avant, il a été accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait par ces trois vilains malandrins.
Exactement. Mais qui était Pierre Picot?
1815, c'est l'année de Waterloo.
Bravo, oui, c'est vrai.
Mais c'est, je vous avais demandé si c'est un personnage des romans, en fait.
Alors, là, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Mais justement...
Ça a été, il était dans l'armée napoléonienne?
Mais non. C'est genre Cartouche ou un personnage de, comme ça?
Pas Cartouche, mais cette histoire...
Un bandit du grand chemin.
Non, mais enfin, là, maintenant, vous devriez trouver. Maintenant, vous savez, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie.
Ouais. C'est l'histoire des Stendhal, non?
Stendhal, non.
Ça a été écrit en roman, ensuite?
Bien sûr. Et donc...
Et donc.
C'est là ce que je vous raconte par éclair.
Donc, c'est pas Balzac.
Balzac, non.
Victor Hugo.
Victor Hugo, non plus.
Flaubert, non plus.
Dumas.
Dumas, oui, évidemment.
Monte Cristo.
Ah, le comte de Monte Cristo.
Le comte de Monte Cristo, c'est la vraie histoire qui a inspiré le roman d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Bonne réponse, heureusement. De François Rollin.
Il reprend le dessus, François, mais il est très perturbé aujourd'hui à cause de Marcella.
Ah non, mais alors.
Mais si, c'est.
Mais à mon avis, il est perturbé à cause de son voisin plutôt que de moi.
Non, non, je crois que c'est toi.
Sûrement pas. C'est mon ami, mon frère.
40 ans d'amitié, on a.
Mais alors, l'attirance sexuelle n'est pas exclue, non?
Non, ah non, 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 mais on ne dit pas ça, on ne dit pas
mais
ça.
Mais t'as pas tout à raconter, hein, non plus.
Non, mais ce qui est fou dans cette histoire de Pierre Picot, c'est quand on la lit, l'histoire vraie, hein, je vous parle, c'est qu'on se dit, ben alors finalement, vraiment, le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, n'a absolument rien inventé. Toute l'histoire est dans l'histoire vraie. C'est-à-dire que ce fameux cordonnier, eh bien, il y a eu un complot contre lui parce qu'il devait épouser une femme très belle et très riche qui s'appelait Marguerite Vigouroux. Et un de ses amis, Mathieu Loupian, tenancier de cabaret, qui lorgnait lui aussi sur Marguerite, qui voulait sa dot, eh bien, l'a fait arrêter, à tort évidemment, l'a fait passer pour un espion et un agent royaliste à la solde de l'Angleterre. Ils étaient 4 amis à s'y mettre. Et évidemment, après avoir fait 7 ans de prison à la forteresse, alors non pas au château d'If, évidemment, comme dans le comte de Monte
Cristo. Mais il s'est échappé dans les conditions
Mais il a trouvé un trésor aussi.
Eh bien, écoutez, pendant son emprisonnement, il a creusé un petit passage vers une cellule voisine. Vous voyez, c'est assez
fou.
Oui,
c'est ça.
Il s'est lié d'amitié avec un prêtre italien qui s'appelait le père Tori. Donc, comme dans le roman, sauf que, évidemment, le nom n'est plus le même, puisque dans le roman, c'est l'abbé Faria, évidemment, qui est enfermé dans le château d'If. Et Picot et le père Tori, il va se passer exactement la même chose.
Il prend sa place une fois qu'il est mort.
En mourant, Tori lègue par testament à Picot un trésor caché à Milan. Et Picot ne s'évade pas, en revanche, il est libéré. C'est ça qui change par rapport au roman. Il est libéré après la chute de l'Empire napoléonien. Et là, il va décider de se venger un à un contre...
Avoir récupéré le trésor, j'imagine.
Évidemment, exactement.
Ah, c'est fou, ça, c'est...
Comme dans le conte de Monte Cristo, donc largement inspiré, vous l'aurez compris, d'un fait divers. Une question pour Stéphane Bess, qui habite Quimper, c'est dans le Finistère. On apprenait aujourd'hui dans la presse que les H4riens avaient quand même déjà récolté 86 000 euros pour qu'on restaure leur coupole. Mais qui sont les H4riens?
Les H4riens, est-ce que c'est une secte?
Non, ce n'est pas une secte, les
H4riens. Une coupole qui se trouve à Paris?
Une coupole qui se trouve à Paris, oui, madame Latsou.
Les Invalides?
Les Invalides, non.
Les coupoles.
H4riens, c'est un peu le comment dirais-je,
Ça, c'est un rapport à la coupole qui s'appelle H quelque chose.
Pas du tout.
D'accord.
Est-ce que ce serait le
si
Panthéon?
Si on trouve la coupole, on s'approche.
Le Panthéon?
Le Panthéon, non.
Le Val-de-Grâce?
Le Val-de-Grâce, non.
Il y en a de coupoles à Paris. Hein.
C'est un chef-d'œuvre qui a été réalisé en 1730, qui a besoin d'être restauré.
Et les L'Académie.
Et les H4iens ont, pour l'instant, récolté 86 000 euros.
C'est le Grand Palais?
Le Grand Palais, non.
Est-ce que les H4iens feraient partie du qui préserve le patrimoine? C'est une nouvelle manière de les appeler?
Pas du tout.
L'observateur?
Les H4iens.
La Notre-Dame.
Pardon?
Notre-Dame.
La Notre-Dame.
le travaux de Notre-Dame.
Ce serait pas le lycée Henri IV.
Expliquez.
Bah, H4iens.
Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Bravo.
Oui. Eh oui, la coupole du lycée Henri IV, elle a été réalisée en 1730. C'est un chef-d'œuvre d'architecture et elle s'écroule sur la tête des élèves au lycée Henri IV. Donc il était temps de la restaurer. Il y a évidemment une collecte qui a été organisée. Pour l'instant, 86 000 euros ont été récoltés par ceux qu'on appelle les H4iens, car les professeurs et les élèves du lycée Henri IV, on les surnomme les H4iens, H comme Henri IV, comme Henri IV, les H4iens. Bravo, Perroni. Non, vraiment bravo.
Oui.
Vous étiez à quel lycée, vous, à Paris, Perroni?
Moi, j'étais au lycée Voltaire.
Ah, vous êtes un voltairien, vous, en quelque sorte. Et vous, alors, Ariel Dombal?
Mais moi, j'étais au lycée franco-mexicano.
Oui, mais comment il s'appelait?
À Mexico, lycée franco-mexicano.
Ah, bah, vous êtes une mexicone.
Ouais. Si. Non, lycée franco-mexicano, et qui, d'ailleurs, a été inauguré par mon grand-père.
Et vous, Christina, alors?
Bilingue. Moi, j'ai étudié au Brésil, mon cher.
Oui, mais comment s'appelait le lycée?
Bennett.
Bah, vous êtes une bénétienne. Vous voyez.
Une bénétienne.
T'es une bénénote.
Et vous, Chantal, non, elle n'est pas allée jusque-là.
Au lycée de Tourcoing. Mais je ne me souviens plus du nom.
Bah, Tourcoing, une couineuse, peut-être.
Non, tourquenoise.
Ah, une tonquenoise.
Non,
non. Ah bon?
La vache.
Il y a beaucoup de tonquenoises à Tourcoing.
Ah, oui.
Énormément.
Et Gazan, toi, tu devais être premier de classe, non?
Non, pas tant que ça.
Non?
J'étais au camp des loges, moi, à Évry, la ville de Manuel Valls.
Pourquoi personne ne me demande où je suis allé à l'école, moi?
Parce que tu n'y es pas allé. Parce qu'on sait que tu n'y es pas allé.
Dans les Ardennes, vous étiez dans les Ardennes.
Ouais, moi j'étais au lycée Chanzy, on avait fait une récolte pour avoir une table de ping-pong, on nous appelait les pauvres.
Les décathloniens.
Sur un petit livre qui vient de sortir chez Alary Éditions, qui s'appelle Ultime. C'est Philippe Nassif qui a recueilli les dernières phrases. Il y a déjà eu quelques livres de ce genre, mais celui-ci est plutôt original. Les dernières phrases, les derniers mots de personnalité. Ce que les plus grands ont dit juste avant de mourir, c'est le thème de ce livre. Et justement, il y a quelqu'un qui a prononcé comme dernière phrase le 8 mars 1869. Il est mort à Paris. Il avait 65 ans. Et sa dernière phrase, ça a été « Enfin, on va jouer ma musique ». De qui s'agit-il?
Hector Berlioz.
Bonne réponse de Christophe de Chavannes.
Bravo!
Alors là, bravo Christophe. Et comment vous avez pensé à Berlioz?
Bah, parce que je connais cette phrase.
Bah, la marche funèbre.
Bah oui.
Enfin, on va jouer ma musique. C'est la dernière phrase d'Hector Berlioz. Alors j'ai un autre musicien. Il s'appelle Gustave Mahler, vous le connaissez aussi.
Ouais. Ça n'arrive jamais seul.
Oh non. Et lui, il est mort, Mahler, qui n'arrive jamais seul. Le 18 mai 1911, à Vienne, il avait 50 ans. Et là, c'est l'inverse. Et ce sera 300 euros pour Franck Kermorvan, qui habite Paris 17e, si vous ne trouvez pas, évidemment, les derniers mots de Gustave Mahler.
Ach.
Ach, non.
Eine kleine Mahler, spum.
Non. Ça pique.
Non.
Ja, volt.
Il a répété deux fois le même mot.
C'était rigolo?
Rigolo, non.
Est-ce que c'est en allemand qu'il a dit ce mot?
C'est international.
Non. C'est pas SOS.
Qui a dit bye bye?
Moi.
C'est Bernard ou Christine?
Moi.
Je le laisse à Christine. C'est moi.
Ils ont un peu la même voix, hein, c'est vrai.
Ah, ouais.
De toute façon, c'est pas ça.
Ils ont un peu le même corps.
Ils ont la même voix, le même corps. Et de toute façon, la même mauvaise réponse.
Est-ce que c'est un mot anglais?
Ah, maman, maman.
Non, non.
Un mot italien.
Non, non.
Est-ce que c'est un nom propre?
C'est un nom propre qu'il va répéter deux fois.
Pépé.
Hitler.
Pépé.
Hitler, Hitler.
Oui, non.
Il aurait dit ça comme ça.
C'était son musicien.
Surtout en 1911.
1911, le musicien d'Hitler. Qu'est-ce que vous racontez, ma vie? Qu'est-ce que vous racontez?
Oui, c'est ta raison, je vais
c'était
très mal.
C'était le musicien d'Hitler qui avait 8 ans.
J'ai l'impression d'avoir couru le marathon de New York. Je suis complètement...
Qu'est-ce que vous racontez?
En roulant. Vous étiez plutôt à la fête du Maranchon.
Oui, du Maranchon.
Ouais, et t'étais à l'arrivée. Hein.
Choupette à la fête du Maranchon.
Alors, il est en train de mourir, Mahler, et qu'est-ce qu'il dit?
Il crée un nom propre.
Deux fois.
Mozart.
Non.
Mozart. Bonne réponse.
De Christophe Beaugrand. Voilà.
C'est la culture, c'est tout.
Je vous accorde la réponse, alors qu'en fait, évidemment, mais ça c'était introuvable, il a dit très précisément Mozartel, car ça veut dire petit Mozart, petit Mozart.
Ça n'a rien à voir. Il s'appelait pas Mozartel, Wolfgang Amadeus. Qu'est-ce que c'est que cette réponse de merde? Excusez-moi.
Le rajout duel en finale, en Autriche, est un diminutif affectueux.
Mais vous demandez un nom. Il dit Mozart, c'est Mozart.
Pardon. Personne n'a un Lexomil ou un Xanax. Hein. Mais tu vas le foutre dans son verre. Tu vas nous péter la gueule, mon Christophe.
Oui, c'est pas Lexomil, c'est du propofol qu'il te faut, je te jure.
Du propofol.
Non, les propos de folle, ça vient de l'autre côté, là.
Et c'est une bonne réponse.
C'est sûr qu'il paraît que quand il se calme, il se transforme en Hulk.
Enfin, je m'en fous, moi. Tant mieux pour la réponse.
Bien sûr.
Vous demandez un nom comme. De quelqu'un, un nom propre. Ouais. Le mec, Wolfgang Amadeus, Mozart, pas Mozartol, Mozartel, Mozart.
Ça y est, c'est gagné.
Ouais. C'est juste pas juste, c'est tout.
Mais Christophe.
C'est juste pas juste.
Christophe, pas vous
dire. C'est juste pas juste.
Calimero.
Tu vois, dans les astres. Vous dites, c'est le nom d'un compositeur. Moi, je ne connais pas de compositeur, il s'appelle Mozartol.
Ça y est.
C'est tout. Je suis d'accord avec toi.
Christophe, pourquoi je te... Parce que je te trouve émouvant.
Oui, on t'aime.
Je vois pas un mec de 60 ans, là, en face.
Moi non plus, imbécile.
Oui, non. Je vois pas un mec de 54 ans. Je vois un petit enfant, le petit garçon...
De Chavanol.
Oui, voilà.
Le petit garçon que tu as été, voilà.
De Chavanol.
Et que tu restes.
Une question pour Joël Glaser, qui habite Champagne-les-Marais en Vendée. Pourquoi les enfants chinois marchent-ils toujours plus tard que les enfants français?
Parce qu'ils ont
le décalage horaire.
C'est pas si bête, mais ce n'est pas ça.
Parce qu'ils ont des chaussons?
Non.
Parce qu'ils ont la jambe arquée.
Quoi donc?
Parce qu'ils ont la jambe très arquée.
Les Chinois ont la jambe arquée.
Bah
parce
oui.
Qu'ils ont les petits chaussons qui les emprisonnent.
C'est pas les pieds bandés, là?
Non, oui. Bah non, on est plus sous Mao, vous voyez.
Ah bah ça se fait encore, hein, les pieds bandés.
Vous avez déjà été sous Mao, Laurent?
Non, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec une tradition chinoise?
Du tout.
Un vêtement.
Donc c'est vraiment...
Attention, je suis obligé de vous répondre oui.
Avec l'astrologie chinoise.
Alors je te dis, c'est que...
D'abord, vous ne tutoyez pas, madame.
Je vous dis, excuse-moi, monsieur. Alors monsieur, est-ce que ça va avec... Parce que eux, ils enroulent les pieds des enfants.
Non.
Oh là là, on peut pas.
Et monsieur, est-ce que tu la capotes?
Là, je comprends. Oui, Christine.
Est-ce que c'est un rapport avec le nouvel an chinois?
Du tout. Pourquoi les enfants chinois marchent-ils toujours plus tard que les enfants français?
Parce qu'ils sont souvent à quatre pattes.
C'est-à-dire?
Eh bien, ils se déplacent d'abord à quatre pattes.
Comme tous les enfants.
Comme tous les enfants.
Parce que c'est pas le même calendrier et qu'on n'est pas dans la même année et qu'ils sont... même date, c'est pas le même calendrier, donc c'est beaucoup plus tard pour
ils
eux.
Sont pas sur le calendrier.
Pas mal.
Bah non, ça veut rien dire. Mais non.
Mais si, bah eux, si. Ils sont en 5669, et donc c'est plus tard.
Oui, mais par rapport à la date de naissance, Andouille.
Mais quand même, c'est pas si bête, on se rapproche.
Non, eh bien, certainement que les Chinois doivent avoir des années plus courtes. Et peut-être que dans l'année chinoise, il n'y a pas 365 jours, ce qui ferait que chaque année, ça commence à un autre...
Les mois ne sont pas dans le même ordre.
On se rapproche, on brûle.
Laurent, les mois ne sont pas dans le même ordre.
Oui. Non, mais on se rapproche.
Il y a moins de jours.
Il y a moins que 365 jours.
Est-ce que c'est pas par rapport au fuseau horaire, alors?
Du tout. Non. Pourquoi les enfants chinois marchent-ils toujours plus tard que les enfants français?
Parce que les années sont plus longues.
Non.
Est-ce que ça a à voir avec les idéogrammes?
Non, mais vous voyez, vous brûlez.
Parce que les jours sont plus courts.
Mais les jours sont pareils dans le monde entier.
Je connais quelque chose de court.
Est-ce que c'est
quand le soleil se lève sur la Chine, nous, il fait nuit. Vous voyez?
Mais qu'est-ce que ça change?
Eh ben, ils marchent plus tard parce qu'ils allument la lumière plus tard.
Oh non. Hein.
c'est quand la lune, con, non quand la lune, elle allumait chez nous. Ben, je suis, il fait soleil.
Vous brûlez, voilà. Hein, vous brûlez, ben voilà. mais vous n'avez pas la bonne réponse pour l'instant.
Est-ce que c'est parce que, normalement, on accouche au bout de 9 mois et eux, comme les éléphants, c'est 18 mois?
Bien sûr.
Alors, je suis obligé de vous répondre.
Ah,
non,
ah yeah, ça y est.
Et on brûle encore.
Ok, ça y est, j'ai compris. Eux, on compte leur âge à partir du jour où ils sont conçus. Et donc, forcément, le jour où ils marchent, ils sont plus vieux de 9 mois par rapport aux Occidentaux.
Excellente réponse de Caroline Diamant.
Ah. Yes. Ah.
Je t'ai mis sur la voie quand même.
En fait, si vous avez le même âge qu'un Chinois, il est au fond, alors que je réfléchis bien, plus jeune que vous de 9 mois, puisque dans son âge, on a déjà compté les 9 mois.
Caroline,
plus vieux.
Non, il est plus vieux, chérie, pas
non,
plus jeune.
Plus jeune.
Non, plus jeune.
Mais
jeune.
Non, mais non.
Si vous dites, j'ai 21, quel âge vous avez, Christine?
Oh là.
Non, mais.
Est-ce qu'on peut me porter du carbone 14?
Si un an, Christina, si un enfant chinois dit j'ai un an, ça veut dire, par rapport à nous, qu'il a 3 mois. Mais si, puisqu'il compte les 9 mois de grossesse.
D'accord.
Donc, en fait, un enfant chinois qui a 1 an, pour les Occidentaux, c'est un bébé
plus jeune. C'est bien ce que j'ai dit.
Oui,
12 mois 9.
Eh oui.
Eh ben non.
Et Caroline mérite son patronyme, car elle est brillante.
J'ai pas très bien compris, là. Parce parce que si vous dites qu'on compte les 9 mois de grossesse.
Oui.
Il commence à marcher plus tard que nous.
Mais dis-nous simplement quand tu comprends, on gagnera des
points. Donc ça veut dire que quand il est. Ah oui, il est plus vieux.
Eh ben oui, voilà.
Donc j'ai compris. Pardon, oui, d'accord. Donc il
triche sur
il est plus vieux.
C'est sympa ces goûters de con.
Si vous avez le même âge avec quelqu'un, en revanche, c'est l'inverse.
Voilà, c'est ça.
Il est effectivement, forcément, plus jeune. Parce que, au fond, quand il vous dit, j'ai pile 10 ans aujourd'hui, si vous dites, ah bah moi aussi, j'ai pile 10 ans aujourd'hui, il n'empêche que lui.
Il a 9 mois de moins.
Il sera plus jeune que vous parce qu'il aura 9 mois de moins que vous.
On sent que le mec a joué Einstein. Oh,
voilà, c'est bien ce que je vous disais.
Bah, vous savez, Albert Einstein m'a beaucoup pénétré.
À quel âge vous avez commencé à marcher, vous, Jean?
Oh là là.
À marcher droit?
Mais à quel âge que ça marche? Moi, j'ai marché. J'ai marché tout, j'étais précoce, hein, en tout. Hein.
Ah, c'est vrai?
Oui, je crois qu'à 2 mois, je marchais. Hein.
Ah oui? Ah, ouais.
faut dire, Laurent, qu'il est né à 4 ans, hein, ça joue un peu.
Tout ça pour repasser à 4 pattes 18 ans plus tard.
Ouais. Pourquoi 18 ans?
Oh, il n'a pas attendu 18 ans. Hein.
Ben, je voulais retrouver la sensation du fœtus.
C'était une bonne question en tout cas. Et bravo à Caroline Diamant d'avoir su avoir le raisonnement qui faisait qu'effectivement...
Leçon pour tous ceux qui la traitent de connasse.
Les enfants chinois marchent toujours plus tard que les enfants français. Même si au fond, évidemment, c'est au même âge. Ça va de soi. Il y avait une petite astuce dans la question. Bravo Caroline. Pour quelle raison dans la presse voit-on depuis au moins 48 heures assez souvent cette phrase « La belle est venue ». La belle est venue.
Une bonne femme.
Venue.
C'est une femme, la belle.
C'est une femme, la belle est venue.
Elle vient des États-Unis.
Pas du tout.
La belle.
C'est une femme vivante.
Ah, si vous avez lu la presse pendant tout le week-end, ah, oui. À plusieurs reprises, vous avez vu cette phrase, la belle est venue.
Est-ce que la belle, c'est quelqu'un qui s'échappe de prison?
Pas du tout.
Est-ce qu'on parlait de moi pour les grossettes ce matin?
La belle, c'est le label rouge pour les.
Pas du tout.
Oui, la belle.
C'est une femme, est-ce qu'elle est française, cette femme-là?
Pas du tout.
Elle est vivante.
Elle vient de Cadix.
Ah, elle ne vient pas de Cadix.
C'est Néfertiti.
Et c'est Néfertiti.
Ah oui.
Bonne réponse.
Ah oui.
Isabelle Mergo, puisque c'est le nom.
Comment ça, d'Isabelle?
De Christine Bravo, c'est pareil.
Ça se termine en haut.
Non, c'est pas pareil.
Comment ça, c'est pas pareil?
C'est pas pareil.
Vous êtes amis, que ce soit l'une ou l'autre.
Je l'aime infiniment, mais.
Bon, là, infiniment, faut pas déconner, infiniment. C'est ce que ça veut dire, infiniment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Non. Enfin, et alors, qu'est-ce que c'est quand t'es amoureuse? Calme-toi.
Ça dure moins longtemps.
En tout cas, c'est le nom égyptien de Néfertiti. Ça veut dire la belle est finie. C'est la traduction de Néfertiti. La belle est finie, voilà. C'est ce que veut dire Néfertiti.
Non, vous avez dit la belle est venue.
Elle est venue, pardon, oui. C'est votre infini. Fini, vous me perdez. La belle est finie.
J'ai rien compris du tout.
Non mais
la belle est grande, merde.
Vous avez vidé la cave de quelqu'un.
comment elle est venue, la belle? Tout en camion.
Ah non, c'est Akhenaton, son mari, à Néfertiti.
C'est un salopard, celui-là.
Ah oui, con.
Mais ça y est, ils l'ont trouvé ou pas?
Non.
Ils ont scanné?
On sait pas.
Pourquoi ils font pas un trou plutôt?
Mais ça va.
Parce qu'il y a des fresques.
Oh, bah, ils remettent des fresques.
Non, il y a des fresques. Qu'est-ce que vous en savez qu'il y a des fresques?
Ah bah, parce qu'on les voit. On peut pas ouvrir.
Il y a vraiment des fresques partout. Il y a plein de
partout.
Mais non, c'est du
C'est un
champ de fresques.
Mais de toute façon, est-ce qu'on peut visiter la tombe de Toutankhamon?
Non, plus maintenant.
Alors, puisqu'on peut pas, autant faire péter la fresque. On verra bien, nous.
Ah non, mais t'es pas bien, toi.
On verra pas.
Non, mais on dirait Daesh, toi, Palmyre. Tu fais pas péter les fresques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sonde avec de nouveaux appareils qu'on avait
pas. Et alors, si on sonde et que Néfertiti, elle est là, et ben alors?
Eh bien, il va falloir trouver un moyen d'ouvrir sans péter la fresque.
Eh ben, alors vas-y, toi.
Tu t'es déjà fait ouvrir sans péter la fresque?
Alors, je vais vous expliquer.
Non, parce que t'as l'air d'avoir le moyen, donc...
Mais on fait maintenant des opérations chirurgicales. On peut opérer le cœur en passant par un petit tube, faire de la chirurgie. On fera exactement la même chose. On fera passer...
Oui, mais donc on la verra jamais.
On fera passer des fibres optiques.
Oui, mais on la verra pas.
Écoute, excuse-moi, j'ai pas fait égyptologie troisième langue.
Oh bah alors tu fermes ta gueule.
Une question pour Monsieur Benoît Hervé, qui habite la Trinité-sur-Mer. En déplacement dans le nord-ouest de la Russie, le ministre russe, Monsieur Veliki Novgorodov. Non, c'est pas son nom d'ailleurs.
Non. J'allais vous le dire.
Ouais. On vous dira pas le contraire.
Hein. Bon, bah disons que c'est son nom.
Ah, bah, moi, il me semble que c'est Novgorodov.
Non, c'est le nom de la ville.
Ah, bon. Novgorodov.
Oui, exactement.
Ah, oui. Et avec un prénom, une ville qui aura un prénom et un nom.
Bien sûr.
Veliki Novgorodov.
Mais non. En déplacement à Veliki Novgorodov. Donc c'est bien le nom de la ville.
Oui, voilà.
Ah, voilà.
Ça peut être un mec aussi.
C'est tout près de Novgorodov-la-Grande, dans le nord-ouest de la Russie. Eh bien, okay. Là-bas, monsieur Vladimir Medinsky, voilà le nom du ministre.
Ah, oui, d'accord.
Vladimir Medinsky, lui, a réclamé à ce qu'on ramène en Russie le corps de... Le corps de qui?
Le corps de quelqu'un qui n'y est plus.
Ah, bah oui, évidemment.
Quelqu'un qui est mort?
Quelqu'un qui est mort, oui.
Qu'on connaissait bien.
Trotsky.
Trotsky, non.
En plusieurs morceaux, il était?
Oh, je sais pas s'il était. Je suis obligé de vous répondre oui.
Ah, bah c'est quelqu'un qui s'est fait décapiter et la tête était à un endroit et le corps ailleurs.
Pas du
André Chénier.
Non.
C'était un écrivain.
Raspoutine.
Non.
Il était russe?
Il était russe.
Et alors pourquoi vous dites que vous êtes obligé de me dire que oui pour en
morceaux? Parce qu'il était en plusieurs morceaux.
Parce que j'ai failli vous répondre non et finalement je suis obligé de vous répondre.
On lui a coupé un petit truc.
C'était un musicien.
C'était un musicien en morceaux de musique évidemment.
Rachmaninov.
Comment vous avez dit, Isabelle?
Rachmaninov. Prokofiev.
C'est pas bien d'essayer.
Tchaïkovski.
Ce n'est pas bien d'essayer de répéter la bonne réponse de Florian Gazan. Rachmaninov. Serge Rachmaninov, qui est enterré aux États-Unis, il vivait Sergueï, mais après, il aimait qu'on dise Serge.
Ah,
aimait qu'on dise Serge, et d'ailleurs,
avec Rachmaninov comme prénom, il est un peu gonflé. Hein. Appelez-moi Serge.
Sergio,
cherchez l'erreur.
Je crois qu'il disait Serge.
Il aimait bien qu'on l'appelle Serge Rachmaninov avec deux F à la fin au lieu du V d'origine, car c'est vrai, même s'il était russe, il a fui, évidemment, la Russie, je crois, en 1917. Il a obtenu la nationalité américaine sur la fin de ses jours seulement. Et aujourd'hui, les Russes voudraient récupérer son corps. C'est un papier dans Le Monde daté d'aujourd'hui. La Russie réclame aux États-Unis les restes de Rachmaninov.
Est-ce qu'on sait où ils sont au moins?
Eh bien oui, ils sont dans un cimetière à New York, dans l'État de New York, où il a été inhumé. Mais son arrière-arrière-petite-fille, Suzanne Wanamaker...
Ne veut pas.
Elle dit, nous n'envisageons pas d'aller contre sa dernière volonté.
Bah non, ils ont raison.
Qui était d'être enterré aux États-Unis, même s'il était russe.
Il sera pas vraiment au courant si on le déplace. Hein, donc.
Non.
Vous avez joué déjà, qui êtes une grande pianiste, Caroline.
Concerto pour piano.
Non, elle a dansé.
Non, j'ai jamais joué du Rachmaninov, vous vous rendez pas compte.
Minou, elle a dansé.
Mais enfin, ça va pas, non.
On en a du Rachmaninov.
Ah, j'ai peur. Ouais,
concerto pour piano, c'est sublime.
Le concerto pour piano numéro 2, cher Christophe, à votre demande.
Moi, je préfère le 3, mais c'est bon.
Oui.
Bien.
Non.
C'est beau, hein, quand même.
RTL, vous écoutez les grosses têtes, en ce moment, le concerto de...
Bon, il a tout piqué à Rimsky-Korsakov, hein.
Oh, complètement, c'est vraiment pompé, mais alors c'est honteux.
Ah oui, oui. Moi, j'ai un voisin qui joue divinement du Rachmaninov et tous les matins, j'en profite.
C'est vrai.
Ouais.
L'île des morts, il joue l'île des morts, parce qu'on a ça aussi en boîte, il paraît. L'île des morts. Bah, c'est pareil. Non, mais...
Ah, l'île des morts, la Corse.
Mais il joue ça au piano.
Comment ça?
Il joue ça avec tous les instruments, ton copain.
Ah, il est pas tout seul.
Ouais, c'est Rémi Bricard.
Ouais.
Non, il fait la partie piano.
Vous n'avez pas du Kenji Girac, plutôt.
Non, mais c'est divin d'avoir un voisin qui joue divinement.
Ouais, ouais.
Moi, j'en ai un qui a commencé.
Il s'appelle David et je le félicite parce qu'il joue comme s'il joue quoi. C'est magnifique.
Il est beau.
Ouais.
Parce qu'en plus, ils ont des mains magnifiques souvent.
Ah, j'ai pas regardé ses mains, mais j'ai regardé son visage.
Le voisin pianiste, c'est bien, mais quand il débute pas, parce que moi j'en ai un, il débute, il joue Lucie de Pascal Obispo à un doigt, puis avec un doigt depuis un mois, c'est dur.
Ah oui, mais c'est peut-être un gars qui a qu'un doigt aussi.
Oh, mais même quelqu'un qui joue bien, c'est chiant parce que.
Ah ouais, c'est beau.
Mais non, attends, ta musique, c'est à l'heure que tu veux, moi, un mec, même il joue bien. Attends,
non, mais il faut que je tende
l'oreille. Que je vais frapper à sa porte.
Il y a tous ça, on a tous ça dans un immeuble.
Vous-même, Isabelle Mergo, vous jouez du piano, c'est peut-être vous qui dérangez vos voisins, je vous signale.
J'ai pas de voisin.
Ah oui?
J'habite seul.
Avec maman.
Très bien, il y a appartement.
Dans un très bien, il y a appartement. J'ai une vieille chatte.
J'ai une vieille chatte.
Maman, ma chatte.
Et mes chattes.
Ah oui, j'imite bien, Florian.
Ah, les grossettes ont repris, hein. J'ai pas dit mot chatte depuis vachement longtemps, faut que je vienne ici pour le dire.
Tu savais plus où elle était.
Personnellement, j'avais perdu le rythme.
Ça, depuis qu'elle joue avec Sylvie Vartan. Oh là! Il vous chante Dadou Ronron pour votre vieille chatte! Je vous ai dit en talon aiguille, Christophe Beaugrand.
Oui, c'est vrai. Oui. Alors vraiment. C'était pour une séquence à la télé, oui, mais.
Mais vous êtes fort parce qu'il faut savoir marcher avec des talons aiguilles.
Mais écoutez, ça vient tout seul, je sais pas pourquoi, c'est la nature.
Mais où est-ce que vous avez trouvé vos chaussures?
Bah, alors en fait, effectivement, j'avais un tournage sur des drag queens pour 50 minutes inside, alors j'étais allé acheter ça dans un magasin pour travelot à Barbès, parce que c'est pas évident à trouver des escarpins en 44. Et
bah, Christina, vous pouvez pas lui prêter les vôtres?
Chérie, ça va pas rentrer dans ce pied, j'ai les pieds, j'ai fait du 40.
Car, quand même.
40, c'est pas mal, quand même.
Bah, 40 italiens, ça veut dire que c'est du 38 français.
Avec un 2m12, comme tu mérites, comme tu mesures, tu as du 38.
Bah, j'ai fait du 40 italien, c'est peut-être 39, je sais pas.
Ah, c'est français, les italiennes et nous, on n'a pas les mêmes pieds.
Non.
Vous
croyez pas que les gens s'en branlent? Honnêtement.
Les pieds, c'est très à la mode.
Oui, oui.
Non, mais c'est très excitant de porter des talons, en fait.
Ah,
ça
oui.
m'a surpris.
Ah oui?
Ben oui, parce qu'on a l'impression d'avoir des jambes sublimes et tout. Dans ça.
Ça y est.
Moi, la dernière fois. La dernière fois que j'ai mis des talons, j'avais cru que mon bas filait, dis donc.
Ah non, mais Pierre, ça lui irait bien parce qu'il a des jambes magnifiques.
Moi, je me suis épilé à la cire, ça fait mal. Hein.
Ah, c'est vrai, vous êtes épilé à la cire, vous.
Oui, oui, oui.
Pour quelle raison?
Je dis ça pour participer à la conversation qui est complètement oiseuse.
Le problème, c'est que t'es revenu en talons, on dirait Régine, hein, quand même. Hein.
Hey, et ma main dans ta gueule, on dirait quoi, hein?
Et vous avez déjà essayé, vous, monsieur de Kersauzon?
Je passe mon temps à ça, moi.
Ah, sur le bateau, c'est pratique.
Quand je sais pas quoi faire, je me dis, tiens, vous n'auriez pas des talons pour faire peur, pour voir comment ça lui va.
Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Sophie Muller, qui habite Rodrenne. Ça va vous intéresser, d'ailleurs, monsieur Perroni.
Alors,
qui avait dit un jour dans une interview, j'ai promis d'arrêter de boire, pas d'arrêter de mentir.
Ah, c'est bien, ça.
C'est un Français.
Un Français.
Un humoriste.
Un humoriste. Acteur surtout, mais qui était drôle sur scène à ses débuts.
Jean Carmet.
Jean Carmet, oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
C'est vrai qu'il n'a pas arrêté de boire.
Une autre citation pour Jérémy Quensley, qui habite Besançon, qui a dit « Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, qui sont peut-être plus vieux que moi maintenant.
Ah, » Ça peut être Claude Sarraute, ça.
Non.
François Le Blondin.
Non.
C'est français?
Non, c'est pas français.
Woody Allen.
Avouez que c'est drôle. Non, c'est pas Woody Allen.
C'est américain?
C'est américain.
Groucho Marx.
Non, non, c'est pas un humoriste.
Ah bon?
C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps parce qu'il avait de l'humour quand il répondait aux questions des journalistes, mais c'était pas un humoriste.
Ronald Reagan.
Ronald Reagan, non.
Est-ce qu'il était acteur?
Ah oui, acteur, oui, je vous le confirme.
Mort,
ah oui.
Alors, de la
oui,
période...
Oui, mort.
Est-ce qu'il a réalisé aussi?
Mort il n'y a pas si longtemps, il est mort en 2010. Ah, oui, je crois qu'il a réalisé qu'il
Mel
était
Brooks.
Mort, oui, depuis, non, depuis 7 ans, oui.
2010, chérie, elle est mort.
2010, il est mort. C'était plutôt un acteur comique ou il faisait des... Il donnait dans le drame?
Il a fait les deux.
Ah, Mickey Rooney.
Mickey Rooney, non.
Il est, très... il est pas mort,
Mickey
Rooney.
Dean Martin.
Pardon,
Dean Martin.
Dean Martin, non.
Est-ce qu'il était très âgé quand il est mort, ce monsieur?
Il est mort, il avait, je vais vous dire ça tout de suite, 85 ans quand
mais
même.
Mais ouais, je ah, sais.
Frank Sinatra.
Frank Sinatra, non.
Non, c'est celui qui jouait avec Roger Moore dans Amicalement
oui.
Vôtre.
Tony Curtis.
Tony Curtis.
Bonne bravo, réponse de Valérie Mérès et Christophe Beaugrand. C'est le titre. En 1806, dans le premier arrondissement de Paris, il y avait encore la rue du Poil au Con. C'était une rue où on pouvait évidemment retrouver les prostituées de, voilà. Depuis le 14e siècle. Mais évidemment...
Oh, elles étaient vieilles alors. Des vieilles putes. C'était des vieilles putes, oui. Mais elles connaissaient le boulot.
Mais depuis, on a évidemment changé le nom de la rue du Poil au Con. Comment s'appelle-t-elle aujourd'hui?
Rue des Déchargeurs.
C'est... Non.
C'est pas la rue Saint-Denis, évidemment.
Rue des Deux-Boules.
Non.
Blondel.
Non.
Rue du Palais-Royal.
Est-ce que le nom de la rue actuelle laisse quand même entrevoir l'histoire précédente?
Du tout. Mais vous pouvez quand même trouver le nom de la rue actuelle en essayant de réfléchir par rapport au nom précédent.
Je l'ai, c'est la rue Blanche.
Du tout.
Oh. Rue Rambuteau.
C'est comme ça déjà chez vous?
On t'a refait le crépi? La Sainte-Croix de la Bretonnière?
Non, Bretonnerie, vous voulez dire.
Bretonnerie. Est-ce que c'est un nom propre, le nom de la rue?
Un nom propre, non, justement.
Rue des Petits Carreaux?
Rue des Petits Carreaux, non.
Rue Vivienne?
Rue Vivienne, non.
Rue de combien... la Cossonnerie?
Mais non, puisque je vous dis...
Que c'est pas un nom propre.
Avec la... C'est pas un nom propre.
Rue de l'Échelle.
Rue de l'Échelle, non. Et qu'avec la rue du Poil au Con, vous pouvez retrouver le nom de la rue actuelle.
C'est pour la rue de la Cossonnerie.
Est-ce que vous voulez dire qu'avec les lettres de Poil au Con, on... La rue Compila?
Non.
La rue... Conspoil.
Non, non, mais effectivement, on se rapproche.
La rue Pilas.
Continue.
C'est pas une question de lettres, c'est plus une... Enfin, un peu de lettres aussi, forcément.
C'est une contrepétrie.
De consonance. C'est une question de consonance.
Qu'est-ce que vous appelez consonance?
Ça fait Aon.
Poilon.
Aon.
Phonétique, en tout cas.
De oui. Phonétique.
La littération, quelque part.
Oui, 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 on n'est pas loin, voyez.
Et Laurent, il y a combien de mots, s'il vous plaît?
Un seul.
La rue Poildon.
Non.
Polisson.
Polisson, non.
Ils ont contracté.
Un peu, oui.
Rue des Poilus?
Rue des Poilus, non.
Ça commence par un P?
Ça commence par un P. Ah.
Pilax?
Poisson?
Non.
Ah ben non, c'est pas
non.
Un commun.
Poissonnière?
Non.
C'est rue et juste le mot après, il n'y a pas de là ou de...
Rue non. Du, rue du.
Ah, rue du. Ah. Rue du.
Ils ont gardé le du d'ailleurs, puisque c'était rue du Poil au Con, et ben c'est rue du...
Paillasson?
Non. Mais voyez, par exemple, phonétiquement, ça marche, ouais. Ça.
Du
si on le dit vite. Paillasson, c'est pas mal, mais c'est pas Paillasson.
Attendez.
Ah oui.
C'est pas rue du Poil au Con.
Rue
c'est
du Potiron.
Rue du Potiron, non.
Mais c'est le même genre.
Ah, ça ressemble plus même encore.
Rue du Petit Pont?
Non.
Rue du Poilon?
Non.
Du Palcon?
Non.
Le Balcon?
Non.
Non. Je m'en rapproche. Je sens que je brûle.
Pendant un temps, elle s'est aussi appelée la rue Purgée, d'ailleurs, pour tout vous dire.
Ah, dis donc. Ah, bah, c'est la rue Fuca.
De 1792 à 1800. Mais là, ça fait un moment qu'elle s'appelle la rue du...
Puis oh du Con.
Pardon?
Puis du Con.
Puis du Con, non.
Et je le fais répéter en plus.
Je ne comprends pas que vous ne trouviez pas, alors que vraiment phonétiquement, c'est très près de la rue originale, la rue du Poil au Con.
Poil au Fion.
Non.
Attendez, Poil au Con.
Ça fait A-O-O.
Donc il faut trouver un mot dans la phonétique,
exact.
Un nom commun.
Mais je n'arrête pas de vous le dire.
Mais c'est pour ça. Le Poil au Con. Poil au Con.
Eh bien, on va distribuer 300 euros. Damien Chiffano touche un chèque RTL.
Le Poilon.
Et c'est devenu la rue du Pélican, tout simplement.
Ça ressemble pas du tout, hein.
Ah bah si.
Oh, c'est dans le camp Pélican.
Poil au Con Pélican.
Oh non.
Oh bah tu parles.
Mais si,
oh, les escrocs, ouais.
Bah non,
oh,
les
escrocs. Ouais,
je suis désolé.
Si, mais
ils ont gardé le P, le L ouais. Et le K. Ils ont gardé les initiales, en fait. Poil au Con. Et
ben oui, pas c'est comme la rue du Poil au Couille qui est devenue l'avenue Maurice Barrès.
La valise.
Michel Bernier, vous serez d'accord pour qu'on donne la valise à Caroline Diamant, qui ne l'a pas pratiquée depuis longtemps.
Eh ben, pratique la valise, chérie.
En revanche, vous allez donner un numéro porte-bonheur, cher Michel.
Ah, ben non, je voudrais donner le numéro.
Allez, vas-y.
Il y a la parité, il n'y a pas les gondesses.
Vas-y, Olivier.
Un homme et une femme, c'est la parité.
Ah ben, si vous voulez, on vous confie même la valise.
Ah, pas exagérer non plus.
Non. Je peux donner le chiffre, la parité quand ça l'arrange.
Oh, ça serait bien.
Ben, évidemment.
Allez, vas-y.
Ah oui, vous devriez faire la valise.
Oh, ouais.
Il fallait pas réclamer. Alors Caroline, un numéro entre 1 et 20?
Le 7.
Le 7.
Attends, tu peux pas trouver un bon numéro?
Mais dis-moi quels sont tes numéros préférés.
Le 14.
Alors je propose le 14.
Le 14, je vois, c'est une femme de...
Ah, c'est une femme.
Ouais, le 14, c'est une femme.
Léa Calado.
Elle a 36
ans. Léa Calado, elle habite Rérieux dans l'Ain.
Elle est Châtain-Clair.
Elle habite dans l'Ain à Rérieux, Léa Calado.
Elle est Châtain-Clair et elle est en train de s'essuyer les mains.
Pour répondre au téléphone.
Ça sonne dans le vide chez Léa Calado. Ouais.
Elle est chez le coiffeur, elle se refait faire sa teinture.
Ah bon. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de
ben ouais.
Léa Calado.
Ah oui, on sent bien qu'elle est Châtain-Clair.
Veuillez laisser votre message.
Un autre numéro, Caroline.
Je propose le 12.
Alors, Marina Baude, qui habite Saint-Malo. Là, je pense qu'il y a une chance. Marina Baude va-t-elle décrocher à Saint-Malo?
Allô?
Mais c'est ma petite Marina Baude. Bonjour ma princesse, comment ça va?
C'est qui?
Ben, devine, hein, oh patate, t'as envoyé ton numéro. T'as envoyé ton numéro pour te faire appeler, bah tu te fais appeler, c'est tout. Devine qu'est-ce qui c'est qui t'appelle.
En plus, quelqu'un qui connaît bien Saint-Malo, pour
oui,
vous dire.
Qui va te faire des cadeaux, peut-être. La version rurale du Prince Charmant.
Ou la version maritime, en tout cas, Marina.
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 S'appeler Marina à oui. Saint-Malo et avoir Olivier de Kersauzon au téléphone, faut quand même le faire.
Elle a raccroché.
Allô, Marina?
Marina,
vous lui avez fait peur, elle a raccroché.
Elle s'est dit c'est un pervers, Marina. C'est un fou qui m'appelle.
S'il y a bien une voix de pervers, c'est bien celle d'Olivier.
Bon, bah, je
savais qu'il fallait pas lui donner la vie.
Ah Marina,
on va c'est Marina qui est dans l'eau
maintenant.
Marina, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Marina,
allô. Oui,
allô Marina, vous n'avez pas reconnu Olivier de Kersauzon qui vous parlait?
Pas du tout.
Ah.
Et bon, bah t'as perdu la valise, Marina.
Marina, pourquoi vous avez raccroché?
Oui.
Ben, je savais pas qu'il faisait en raccrochant.
Ah bah oui, quand même.
Ah oui.
Ouais, bah, tu crois que nous, on savait qui c'était quand on appelait? On n'a pas raccroché pour autant.
Marina, Olivier de Kersauzon va vous poser une question qu'il n'a encore jamais posée à une jeune femme.
Marina, j'ai jamais demandé ça à une femme. Vous êtes prête, Marina?
Je suis prête, Olivier.
Ça va peut-être vous troubler, ce que je vais vous demander, mais il va falloir me répondre honnêtement, hein. Marina.
Je vais faire tout pour.
Regardez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la valise?
Je sais pas du tout. Désolée.
C'est partout dans la presse, et c'est une question pour Olivier Vallard qui habite Lille. Elles font une EVA. Qui fait une EVA?
Alors, c'est un acronyme français?
C'est un acronyme, mais pas français.
Alors, c'est European...
D'ailleurs, ça n'est pas un acronyme, parce
non,
que
oui.
C'est...
C'est pas une EVA.
Voilà. L'OTAN, c'est un acronyme, parce qu'on dit OTAN, on dit pas O-T-A-N.
D'accord.
C'est la différence entre un acronyme et un sigle.
Est-ce que les mots sont en... Est-ce que les mots dont le sigle... auquel le sigle fait référence sont anglais.
Dites, vous pouvez me la répéter votre question.
Si.
Est-ce que c'est anglo-saxon?
Sont des mots anglais ou français?
Oui.
Ah non, c'est ça. Sortie du vaisseau spatial. Je sais pas quoi.
C'est une bonne réponse de Gérard Jugnot. Je vous ai compris, mon Gérard.
Vous avez de la chance. C'est extra-vaisseau...
EVA, c'est extra-vehicle activity, une sortie dans l'espace. Et donc, qui fait une EVA?
C'est les deux filles, là.
Les deux femmes, effectivement, qui font une EVA dans l'espace.
Ce ne sont pas des femmes, ce sont des...
Comment ça, ce ne sont pas des femmes?
Ce sont des cosmonautes.
Voilà.
Spationautes.
Non, des astronautes.
Elles sont françaises?
Elles sont pas françaises.
Alors, c'est des spationautes.
Astronautes.
Avant d'être des femmes, ce sont des spationautes.
Des astronautes.
Des astronautes.
Mais c'est idiot ce que vous me dites. Si on en parle, c'est justement parce que c'est des femmes, autrement on n'en parlerait pas.
C'est bien ça le
moi,
problème.
Moi, quand ma femme fait une EVA, le V, c'est vaisselle.
C'est bien, Bernard. Oui.
Ah putain.
Ça fait avancer la cause.
Ah, ça oui.
Faites jamais la vaisselle, mon bon Bernard.
Bah, si, j'ai une machine.
Elle s'appelle Josiane.
Mais enfin, quand même, Bernard, j'espère que vous partagez les tâches ménagères.
Étant tout seul, je partage à moi tout seul les tâches
ménagères. Comment ça, vous êtes tout seul? Mais non, vous avez, je sais pas combien de femmes vous voient à chaque fois avec une différente.
Oui, mais enfin, j'ai un lieu seul.
Comment ça,
vous habitez tout seul?
Je papillonne.
Attendez, vous avez un lieu, vous avez un papillon.
Vous habitez tout seul, vous, maintenant.
T'as vu la gueule du papillon? Je vous aurais plutôt vu comme larve que papillon.
Oh,
tu es libre, célibataire, comme ça?
T'es célibataire maintenant?
Vous vivez single, c'est ça que vous
single,
voulez nous dire?
Single, single.
Oh, c'est mignon, ça, alors.
Mais vous vous faites... vous cuisinez ou vous achetez du tout prêt?
Ah, du tout prêt.
Ah, du tout prêt.
Mais tu reçois tes enfants, quand même.
Ah, c'est bah
oui,
ça.
Bien sûr.
Combien vous avez d'enfants, tout, mon bon père?
Six.
Six enfants.
Ah non, ne lui demandez pas les prénoms, hein.
Oui, là, j'ai du mal.
C'est vrai, vous avez retenu les six prénoms?
Si, mais non, si, bah, quand même.
Non, j'ai vu un jour à la télé, c'était une merveille. J'ai vu Bernard Mabille avec vous, Laurent.
Oui.
Et tout d'un coup, il dit, ah ben, bah, ton enfant qui est là, oui, comment
c'est
il s'appelle?
C'est pour ça qu'il y en a plus de cinq, elle s'est suicidée, celle-là.
C'est pas vrai.
Non, pose une question, Laurent.
Oh bah entre vos enfants dont on peut pas parler, la femme de Gérard dont on peut pas parler.
D'accord.
Alors que de ma femme on peut parler, on peut dire que le samedi à 18h30 elle joue au théâtre du Marais. Ça on peut le dire.
Votre femme?
Bah oui.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Tatiana Georgievitch.
Elle a peut-être fait une VA elle aussi.
Une VA pourquoi?
Vous l'avez trouvée au Crazy Horse?
Pourquoi Georgievitch, c'est pas du tout, c'est un nom qui vient de Serbie.
Tatiana, c'est un peu russe quand même.
Oui, alors c'est un prénom de pute, mais le nom est parfaitement correct.
Mais vous l'avez eu gratuitement. Bon, on est content de savoir qu'elle est au théâtre.
J'espère qu'elle parle bien français, la pauvre, parce que sinon...
Au théâtre du Marais, oui, tous les samedis à 18h30.
Mais qu'est-ce qu'elle joue?
Elle joue un spectacle qui s'appelle « J'ai rien entendu, mais j'ai tout compris », et qui est un spectacle dans lequel, dont le pitch est « Ma vie a basculé le jour où je me suis rendu compte que j'étais plus intelligente que mes parents ». Et donc c'est un spectacle qui interroge avec humour et avec drôlerie cette question de la transmission et surtout cette question de l'élévation.
Redonnez-moi l'horaire, le jour.
18h30.
18h30 les samedis.
Vous êtes auteur du spectacle?
Je suis co-auteur, forcément.
Non, je vais y aller parce que je vais me faire un plaisir de l'interrompre si jamais elle prononce mal un « et ».
Ouais, c'est ça.
Vous saurez que c'est moi. Elle s'appelle Judith Polgár, elle est d'origine hongroise et c'est une des rares femmes dans sa catégorie. Laquelle?
Sportive?
Sportive, on peut considérer que c'est un sport, mais certains ne le considèrent pas tout à fait comme un sport.
C'est violent.
Non, c'est pas
non,
violent.
C'est très intellectuel.
Exact.
Les échecs.
Les échecs, c'est une championne d'échecs. Ouais. Bonne réponse de Stevie. Elle est née à Budapest et elle a quand même atteint le niveau de 8e mondial il y a quelques années. C'est très très rare. Elle n'est plus compétitrice aujourd'hui. J'ai le classement des femmes qui jouent là en ce moment et sachez que la première, elle est seulement 82e mondiale et c'était évidemment une question qu'on se pose. J'ai vu ça dans un film, d'ailleurs, qui s'appelle Le Tournoi.
Vous étiez sur votre tapis?
Ouais, exactement. oui, j'ai vu deux films ce week-end, puis j'ai couru deux fois. Et donc... c'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée. Pourquoi les femmes sont-elles moins bonnes aux échecs que les hommes?
Est-ce qu'elles réussissent? Ça dépend, ce Golden Royal, elle est pas mal aux échecs.
Non, mais sérieusement...
De toute façon, il y a des différences dans le cerveau, ça.
Oui, c'est pas physique, ça, vous voyez, les échecs.
Ah oui, mais c'est des problèmes de neurones. Les cerveaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Bah oui, mais elles ont des...
Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement?
Bah, les femmes sont très meilleures dans des tas de
dans le porno, ce genre de choses.
Et puis dans d'autres domaines, mais oui, mais on sait très bien qu'il y a une différence, quand même, ça.
Vous êtes en train de dire qu'elles sont moins intelligentes que les hommes?
J'ai l'impression, Laurent.
Non, pas du tout. Elles sont trop susceptibles, mais non, bien entendu.
Non, mais c'est avoué que c'est quand même une vraie question qu'on se pose. Effectivement, il paraît que c'est un milieu très macho.
Ben oui.
Il y a peu de femmes dans les compétitions. L'autre argument, c'est que les femmes prennent les échecs comme un hobby, alors que les hommes le prennent de manière plus agressive, voulant absolument gagner et obtenir
ça, c'est pour tout, hein.
des résultats. Ah, c'est pour tout.
Bah oui, même dans l'humour, on n'a pas beaucoup de femmes humoristes, je trouve, moi, dans mon domaine. De ma génération.
Plus qu'avant, mais bon, voilà,
dans tous les domaines, c'est pareil. Hein.
Qui joue aux échecs ici, Gérard, Junior?
Pas du tout.
Ah, vous avez une tête de joueur d'échecs.
Ah non, je suis nul.
Ah, c'est vrai?
Mais oui, il faut penser.
Ben alors, bon, vous pensez, vous réfléchissez. Vous faites pas passer pour idiot, Gérard.
Moi, je suis pas idiot, mais je n'ai pas cette intelligence-là, voilà.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, Stevie, il joue aux dames, lui.
Non, je joue aux échecs.
Tu joues, hein?
Ah ouais, moi je joue aux échecs.
Ah oui.
Vous jouez aux échecs, vous?
Bah oui, oui, je joue aux échecs. Je vous l'avais déjà dit. On avait même parlé de l'échelle du classement des joueurs d'échecs, mais le nom m'échappe.
Vous êtes classé, vous?
Ah non, je suis pas classé. Au monument, c'est tout. Non, mais j'aime bien les échecs, mais il y a pas besoin d'être intelligent, je pense. Enfin, moi,
bah non, maintenant, vous mais non, parce que.
Bah oui, je confirme.
Je vais m'y mettre, hein.
Bah mais la chance du débutant, souvent, quand il connaît rien, tu fais pof, 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 et puis le pro, bah, il est baisé, parce que bah, je sais pas comment. Mais...
Alors attendez, expliquez-nous quand même, les pièces d'abord, il y a quoi comme pièces?
Les pions, un par un, après
ça, il y a la folle.
T'as les tours.
La cavalière.
La cavalière, elle fait des L, le cavalier fait des L, comme ça.
Quelle méthode vous vend? Parce qu'il y a des...
J'ai pas de méthode particulière. J'ai appris à jouer avec ma belle-mère, en fait.
Ah oui?
Ah oui.
Votre belle-mère?
Ma belle-mère.
Attendez,
je crois que
votre belle-mère de ta femme,
la femme de mon père.
La femme de votre père.
Coco, elle s'appelle.
Coco, ah très bien.
Et voilà, et j'ai joué. Et la première fois que j'ai joué, j'ai fait le coup du berger. Alors je suis incapable de vous dire ce que c'est.
T'as sorti le bâton.
Et tu m'as fait le coup du berger, j'ai dit, peut-être, mais je suis incapable de...
C'est impressionnant, hein, François-Olivier Gisbert, être ainsi assis à côté de Stevie. Et...
Bah, ça m'impressionne, il est formidable.
Ah, ouais,
il a
ça,
la santé.
Oui.
Je sentais le écharlé arriver. Hein.
Non, c'est vrai, franchement.
Ouais, mais à son âge, on sera peut-être plus grand que vous.
Comment ça?
Bah, on est jeune encore, vous avez quel âge, François-Olivier?
67.
Voilà, nous on en a 36, sur les 30. Voilà.
Ouais, j'ai le double. Ouais.
Voilà. Moi j'apprends tous les jours quelque chose.
Ouais. Et moi j'oublie tous les jours quelque chose.